Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci d'être des nôtres à l'occasion de cette conférence-discussion de la chaire L.R. Wilson, qui coïncide aussi avec le cours de droit de l'audiovisuel. Donc, c'est finalement un amalgame bienveillant entre les enseignements et l'ouverture vers la collectivité dans un sens plus étendu. C'est un peu dans la vocation de la chaire L.R. Wilson. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus long sur cette chaire, des feuillets d'informations sont à votre disposition sur la petite table qui donne l'adresse du site de la chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique. Et donc, ce soir, nous avons pour nous entretenir du sujet des évolutions récentes de l'audiovisuel, du droit de l'audiovisuel français et européen, Emmanuel Derieux. Emmanuel Derieux, depuis 3 décennies... J'avais dit 2, tu vois, mais là, tout à l'heure, il m'a dit que c'était 3 décennies. Enseigne le droit de la communication et par ses publications nombreuses et approfondies a contribué plus que bien d'autres, ou certainement de façon considérable, à nous aider à comprendre le droit de la communication. Professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas, il est l'auteur de nombreux ouvrages qui font autorité sur le droit de la communication. Je me permets d'en montrer quelques-uns parce que... Je ne les ai pas tous apportés parce qu'il aurait fallu apporter une partie importante de ma bibliothèque, mais on lui doit un manuel de droit de la communication qui est à sa 4e édition et il m'indique qu'une 5e édition sera bientôt mise en librairie. On lui doit également le dictionnaire de droit des médias, un dictionnaire qu'il a publié en 2004. Il a été, et il est toujours, conseiller à la rédaction du Légipresse, ce journal du droit de la communication, revue mensuelle du droit de la communication. Il a été éditeur, il est éditeur de ses ouvrages, ses recueils de droit de la communication qui réunissent les textes. J'ai ici ceux du droit européen et international, mais il y en a aussi pour le droit français. Il est correspondant de la revue Medialex, la revue suisse de droit des médias. Il écrit régulièrement dans des revues comme la revue Communication et Commerce électronique, la revue Légipresse que j'ai mentionnée tout à l'heure, et les autres. Il est un collaborateur recherché pour la plupart des autres revues juridiques françaises et internationales, puisqu'on voit ses textes dans plusieurs publications. Penseur du droit de la communication, il a, par ses travaux, contribué à définir les contours de ce qui est désormais considéré comme une discipline. Il a littéralement contribué et continue de contribuer à créer cette discipline du droit de la communication, à lui donner ses lettres de noblesse, à lui donner aussi la substance et les cadres analytiques et théoriques qui sont encore utilisés et le sont sans doute encore pour les prochaines décennies. Alors donc, c'est avec grand plaisir que nous l'accueillons avec nous. C'est une soirée, comme les activités de la chaire le sont toujours, informelles. Notre conférencier va nous faire sa présentation. Le texte qu'il a remis sera vraisemblablement disponible sur le site web de la chaire, donc le texte qui fera en quelque sorte, reprendra de façon plus détaillée les propos qu'il va nous tenir ce soir. Et nous allons également capter ce qui se dira ce soir, non pas dans le but de le retenir contre lui ou contre vous, mais lors d'une deuxième partie de la séance, un dialogue pourra s'établir avec notre conférencier, donc une discussion, questions-réponses, où nous pourrons échanger sur les évolutions du droit de la communication dont il va nous faire part. Alors, Emmanuel Derieux, je te souhaite la bienvenue et je te laisse le plancher. Nous sommes pendus à tes propos.
Merci pour ces propos trop aimables. L'amitié. qui est connu parfois dire des choses qui dépassent la vérité. En gros, c'est en tout cas une infraction de publicité mensongère et quelque chose qui t'amènerait à être traduit dans les tribunaux pour avoir, au-delà de ce que les commerciaux vendant des livres ou vendant des produits dont ils sont assurés la promotion sont parfois amenés à dire. Alors, ayant fixé la barre très haut, je crains de passer en dessous de la barre. Mais heureusement, vous êtes là aussi pour enrichir nos débats, nos réflexions communes. Comme Pierre Fellel vient d'indiquer, je vais essayer d'exposer dans une première partie de notre rencontre quelques éléments, quelques points de repère du droit français, du droit européen, mais j'espère qu'ensuite, si je ne vous ai pas trop lassé, il y aura échange et que par là, ça donnera plus de richesse à ce qu'ensemble nous pourrons essayer de dire sur certaines de ces caractéristiques du droit français, de la communication et de l'audiovisuel. On verra tout à l'heure si on parvient encore à définir clairement l'objet même de cette discipline, ce qui est aussi une des conséquences de cette évolution des techniques qui, du fait de ce que, en tout cas en France, on identifie au titre de cette convergence des techniques, rendent floue la détermination même de l'objet de ce droit. Je me souviens, il y a quelques années, je voudrais évoquer tout à l'heure cette révision de la directive communautaire en travaillant dans une commission un peu informelle, quand même à Bruxelles, sur ce projet de directive. La mission qui m'avait été confiée avait été de définir la télévision. Je me dis, ces gens à Bruxelles, dans les bureaux, ils élaborent des textes, certes compliqués, mais ils ne savent même plus ce que c'est que la télévision. Ils sont obligés de demander à quelqu'un de leur dire ce qu'est la télévision, objet même de cette directive communautaire. J'ai compris après que la question n'était pas totalement inutile et qu'on est amené en effet à se demander aujourd'hui ce qui peut être l'objet de ces éléments de réglementation, ce qui, je l'indiquerai tout à l'heure, dans cette directive révisée, ne s'appellera plus la télévision, mais les services de médias audiovisuels. On verra si la notion est plus compréhensible ou si elle englobe davantage d'éléments que la notion même de télévision. Mais j'anticipe sur certains des éléments que je voudrais exposer avec vous. Donc l'intitulé est donné à Pierre Fellel dans son aimable invitation, m'a indiqué qu'il fallait que j'essaie d'évoquer ce droit audiovisuel, mais m'a laissé le soin d'en délimiter le champ. Donc le titre que, et notamment l'intitulé, et donc le titre que j'avais retenu, proposé, était celui donc de rappeler au moins quelques-unes des caractéristiques générales du droit français audiovisuel avant d'en évoquer les évolutions les plus récentes. Certes, il est important de savoir où on en est aujourd'hui, quelles sont les évolutions, les problèmes les plus nouveaux, mais on ne comprend bien les questions que si on est capable de les resituer dans un contexte plus général, et puis surtout, et nous évoquions encore cela il y a quelques minutes avec Pierre Fellel, mais c'est un de mes data, à mon âge, plusieurs décennies d'enseignement, on finit par radoter un peu, c'est un de mes data que de considérer que les principes doivent pouvoir continuer à s'appliquer à ces techniques et à leurs évolutions, et qu'on gagnerait sans doute beaucoup en se référant à des principes fondamentaux qui sont probablement capables de régir des évolutions et des techniques nouvelles. Le droit, les juristes courent toujours derrière l'évolution des techniques, mais les techniques vont beaucoup plus vite que la règle de droit, et le droit se laisse constamment distancer par rapport à cette évolution des techniques. Je pense que si l'on avait la sagesse de se référer à des principes fondamentaux, on trouverait probablement des éléments de réponse à bien des questions que l'on semble découvrir, qui ne sont pas des questions nouvelles, mais qui se posent peut-être un peu différemment, ou auxquelles l'évolution des techniques et leurs usages donnent une actualité, un sentiment de nouveauté, alors que c'est des problèmes probablement plus anciens et qui avaient déjà leurs éléments de solution. Donc j'essaierai, pour situer les dernières évolutions du droit français et européen, de commencer par rappeler d'abord certains des principes ou faire de l'histoire du droit audiovisuel. C'est une discipline qui pourrait relever maintenant de l'histoire du droit. Sans remonter à l'histoire du droit romain, on peut aussi faire du droit de l'histoire du droit audiovisuel. Donc, j'essaierai d'abord de vous brosser quelques-unes des grands éléments de ce droit français avant d'identifier quelques-unes de ses évolutions. Alors, parmi les caractéristiques du droit français de l'audiovisuel, on peut assurément considérer que ce mode de communication, ce média ne relève pas de toutes les règles du droit commun des médias, et cela par rapport à l'état des techniques et ce qui a longtemps justifié cette spécificité du droit audiovisuel, c'est notamment le caractère limité des fréquences disponibles, dans des conditions telles que il n'y avait pas, en tout cas dans un temps très ancien, de capacité de diffusion permettant à tous ceux qui en auraient eu l'envie, ou en tout cas à tous ceux qui en auraient eu les moyens financiers, de se lancer dans cette activité. Chacun peut, en tout cas dans des pays qui ne connaissent pas la pénurie de papier, lancer un périodique, éditer des livres, diffuser des tracts. Certains régimes autoritaires tirent l'argument de la pénurie de papier pour s'y opposer. Nous n'en sommes heureusement pas là dans nos pays, mais l'état des techniques a longtemps fait que le nombre limité des fréquences hertziennes existantes ne permettait pas à tout un chacun de se lancer dans ce secteur d'activité. Et donc, les autorités, en l'espèce la France, les autorités françaises, ont considéré que le mieux était pour elles de conserver la responsabilité et l'autorité de l'exploitation de ces activités de radio et de télévision. Et donc, nous avons longtemps en France vécu sous un régime de monopole d'État. Les évolutions des techniques ont fait que il y a eu ensuite donc cette adaptation du droit à cette évolution des techniques, et on va voir qu'il y aura cette ouverture du système audiovisuel à un secteur privé, un système dualiste, public et privé. Donc le retard apparent d'une législation par rapport aux techniques, l'abondance des textes, l'instabilité législative, si j'essaie d'identifier quelques-unes des caractéristiques du droit français, nous n'avons pas toujours été champions du monde de football, nous ne serons probablement pas champions du monde du rugby, je crois que c'est de cela qu'il est question. À ce moment-là, des compétitions sportives en France, nous ne serons probablement pas champions du monde de rugby, mais nous sommes champions du monde dans le nombre de dispositions législatives relatives à l'audiovisuel. Si je n'évoque les dernières évolutions les plus récentes, c'est de l'histoire. J'ai le malheur d'avoir vécu ces périodes-là. Je n'ai pas tout étudié, mais je les ai vécues. Si je n'évoque que la 5e République, qui commence en France en 1959, évoquer les divers statuts dont la France a été, ou le droit de l'audiovisuel a été l'objet en France, 1959, 1964, 1972, 1974, 1982, 1986, 1972, 82, 84, 86, pour évoquer les dates les plus fondamentales. Mais si j'évoque le texte aujourd'hui officiellement en vigueur auquel on doit se référer, c'est une loi du 30 septembre 1986 qui régit aujourd'hui les activités de communication audiovisuelle. Cette loi, depuis 1986, a été l'objet, je vais dire une quarantaine, parce que je ne sais pas si c'est 38, 39 ou 41, mais je vais dire une quarantaine de modifications législatives, dont certaines sont importantes. Ça reste officiellement le même texte, mais qui a été l'objet de 40 modifications, dont certaines sont des volumes entiers de ce texte de loi qui ont été modifiés. La dernière révision de cette loi de 86 a été celle d'une loi du 5 mars 2007, qui essaie d'anticiper sur la télévision du futur, l'adaptation à l'évolution des techniques, mais ça ne sera sûrement pas la dernière révision de cette loi de 86, à moins que une majorité politique nouvelle ou un président nouveau dans son activisme ne veuille mettre sa marque à cette évolution législative, et peut-être la sagesse amènerait aussi à abandonner le texte aujourd'hui en vigueur pour coordonner, codifier différemment ces dispositions, parce que le texte aujourd'hui en vigueur, qui était l'objet de modifications législatives de majorités politiques différentes, les alternances de cohabitation, ce texte n'a plus aucune cohérence entre les interventions d'une majorité politique libérale de droite, les interventions d'une majorité politique dite socialiste, des interventionnistes, fait que ce texte manque globalement de la cohérence que l'on serait en droit de chercher dans la règle de droit. Donc, abondance, instabilité des textes, volume des dispositions aux dispositions législatives, se rajoutent des dispositions réglementaires, dans le recueil auquel Pierre Sodel faisait allusion tout à l'heure, les dispositions relatives à l'audiovisuel doivent comporter plus de 60 pages, un texte serré. nul n'est censé ignorer la loi, mais si quelqu'un comprend ces dispositions, bravo. On sera tout à l'heure de vous souligner, notamment la capacité dans laquelle vous serez, vous le maîtriserez, vous le mesurez, vous le percerez par vous-même, la capacité dans laquelle vous serez d'essayer de dégager quelques points de repère, notamment en faisant du dispositif anti-concentration. Je mets au défi qui que ce soit d'exposer aujourd'hui clairement l'arsenal juridique mis en place en France pour réguler cet élément limite à la concentration, au point que dans mon mauvais esprit, des caractéristiques de ma personnalité vous percevrez aussi, dans mon mauvais esprit, je finis par me demander si cela n'est pas fait exprès pour que personne ne puisse véritablement appliquer ces dispositions. Mais il faut avoir mauvais esprit comme je l'ai pour avoir cette liberté d'expression de l'universitaire pour dire des choses de ce type-là. Donc, volume, abondance des textes, stabilité des dispositions législatives, tout cela est sans doute une des caractéristiques de ce droit français de l'audiovisuel. Donc, les implications politiques ne sont pas négligeables dans l'état du droit, comme dans ses évolutions. J'évoquais à l'instant ces changements de majorité politique, l'abandon du monopole d'État n'a été le fait en France que d'une majorité politique qui était pourtant, dans son idéologie, plus étatiste ou interventionniste. C'est une majorité de gauche, en 1982, l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, qui a conduit à l'abandon du principe du monopole d'État. Ce n'était pas tout à fait dans la logique de la cohérence idéologique de cette majorité politique de franchir le pas de cet abandon du monopole et de la création d'entreprises privées. Il y avait des années peut-être à servir et à favoriser, et donc ça a pu aussi pousser à cette évolution législative. Souvent utiliser cette formule, l'abandon du monopole, la droite en a rêvé et la gauche l'a fait. Donc il n'y a pas toujours cette cohérence intellectuelle entre les dispositions adoptées et ceux qui les adoptent. Donc l'histoire, l'évolution politique, idéologique, l'évolution des mœurs et des mentalités, l'incidence des techniques, l'environnement international et européen, c'est aussi une des dimensions que l'on doit aujourd'hui prendre en compte ou en considération. On ne peut plus considérer dans ce domaine-là, mais c'est déjà vrai des autres médias, et ça l'est davantage encore de l'Internet, on ne peut évidemment plus considérer ce droit, on va continuer à appeler de l'audiovisuel pour le moment, en tout cas, on ne peut plus le considérer dans le seul cadre national. Les efforts limités d'une coopération, d'une coordination internationale conduisent à faire en sorte que le droit national oblige à ce que le droit national soit en conformité avec ses environnements internationaux et plus précisément, s'agissant de pays européens, l'environnement européen du droit audiovisuel est aujourd'hui quelque chose de tout à fait essentiel, avec là aussi l'ambiguïté ou la complexité dans la compréhension ou la présentation des choses qui est liée au fait qu'il y a en réalité deux structures européennes différentes. Il y a l'Europe économique du marché en voie d'origine, la communauté européenne ou l'Union européenne comme on dit aujourd'hui et qui est davantage une organisation économique et donc qui est le lieu d'élaboration de règles qui vise à, tout en formulant des règles de droit, à mettre en place un principe de libéralisme économique, de libre concurrence, de libre circulation. Et puis il y a l'Europe des droits de l'homme, l'Europe du Conseil de l'Europe. Donc ces deux structures européennes ont aussi une incidence dans l'environnement juridique européen du droit français. Vous voyez que le contexte est complexe. Entre les techniques, les politiques, la situation nationale, l'histoire, la culture, l'économique, l'européen, l'international, tout ça rend difficile l'élaboration, la compréhension et risque de donner un peu d'incohérence aux dispositions en vigueur. Alors, c'est dans cet ensemble-là que je vais essayer de dégager donc certains des éléments essentiels du droit français, en essayant de ne pas être trop long pour ne pas abuser de ma liberté d'expression et laisser aussi à chacun d'entre vous la possibilité de s'exprimer. Je crois que les échanges sont fructueux et donc je voudrais simplement exposer, avec un minimum de temps quand même, mais nous laissant le temps d'une réflexion commune. Donc je vais d'abord, dans une structure qui correspond à la tradition juridique française, d'un plan de parties en deux sous-parties, il y a des mécanismes risques intellectuels comme ça qui sont devenus pratiquement inévitables. Donc dans une première partie, je voudrais évoquer l'adaptation de ce droit français à l'environnement technique, l'adaptation ou les adaptations, peut-être serait-il plus sage de dire, les adaptations à l'environnement technique, et dans une deuxième partie, j'évoquerai un peu plus brièvement d'ailleurs, parce que vous serez déjà fatigué, et peut-être moi aussi, j'ai rarement l'habitude de faire cours entre 1h et 3h du matin, je suis encore dans ce décalage-là, même si les contrats d'espace font qu'il faut être présent dans les locaux universitaires à des heures étranges. Vous le vivez aussi. Donc après, dans une deuxième partie, j'évoquerai les adaptations à l'environnement européen qui me paraissent expliquer aussi un certain nombre d'éléments de ce droit français de l'audiovisuel. Donc les adaptations à l'environnement technique, tout d'abord. Donc je disais cela en commençant il y a un instant. L'état des techniques a longtemps expliqué, sinon toujours justifié, que l'audiovisuel, je dis cette notion, on verra tout à l'heure si elle a encore un sens, soit l'objet ou matière à un statut particulier. Des règles qui ne s'imposent pas à la communication par la voie de l'écrit, qui ne connaît pas ces mêmes contraintes techniques. Et là encore, l'Internet multiplie les possibilités de diffusion et ne connaît plus aucune de ces restrictions liées à cette limitation des techniques existantes. Donc, c'est ce qui, pendant longtemps, donc, a justifié l'existence d'un statut particulier de l'audiovisuel, dont l'objet lui-même est incertain, je vous le disais tout à l'heure, ce qui avait suscité chez moi curiosité ou inquiétude lorsqu'il m'avait été demandé de réfléchir à la notion même de télévision. Alors, dans le contexte juridique français actuel, l'audiovisuel ou la communication audiovisuelle n'est qu'une sous-catégorie des communications électroniques, on est bien dans le cadre de cette chaire ou de cet enseignement, et la communication audiovisuelle est dans les textes aujourd'hui en vigueur, je ne sais pas si c'est une véritable définition, la définition que le texte de la loi de 86 en donne, communication au public de services de radio-télévision. Communication au public de services de radio-télévision. Alors, comme toujours dans un dictionnaire, on vous envoie d'un mot à un autre, quand on ne vous envoie pas du contraire à son contraire, on finit par ne pas savoir ce que cela signifie. Donc les services de radio-télévision sont l'objet donc, de ces éléments de réglementation. Alors le législateur, dans sa sagesse, qu'il n'a pas toujours eue, nous définit la télévision comme tout service de communication au public par voie électronique. On retrouve donc cette référence à ce mode de diffusion, destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public. En réalité, ce qui est caractéristique, et c'est finalement ce que on doit retenir, ce qui est caractéristique des activités de radio ou de télévision par rapport à d'autres services de médias audiovisuels, pour utiliser le langage plus récent des communautés européennes, ce qui fait la radio ou la télévision par rapport à d'autres modes de diffusion, y compris de même type de contenu, c'est l'existence d'une grille de programme. Une société de programme, on dit d'ailleurs cette notion, une société de programme de radio et de télévision, elle va se distinguer d'une base donnée ou d'un service de vidéo à la demande ou d'autres modes d'accès, site internet ou autre, par le fait que la société de programme est d'abord une grille de programmation et que le jeudi à 20h, il y a telle émission, que le vendredi à 14h, il y aura tel ou tel autre type d'émission, et que le public accède à ces émissions au moment où elles sont diffusées. Avec aujourd'hui un pari technique, cette possibilité que l'on a de télécharger, d'accéder en différé à ce qui était pourtant un élément de programme, c'est une des pratiques de plus en plus répandues en France en matière de radio et de télévision, où pratiquement nombre d'émissions sont annoncées aux auditeurs, sinon aux téléspectateurs, avec l'information, si vous voulez retrouver l'émission, vous pouvez accéder au site de la station et pendant une semaine, à n'importe quel moment. Donc, qu'est-ce qui relèvera encore des activités de radio et de télévision? L'existence d'une diffusion à un moment donné accessible au public et cette possibilité d'accès à la demande, c'est l'opération de rattrapage. J'étais pas à l'antenne, à l'écoute au moment où cette émission est diffusée, où je n'ai pas entendu le début de l'émission, où j'en ai entendu que la fin, où j'ai entendu le début dans ma voiture et puis il fallait que j'aille faire court, donc je n'ai pas entendu la fin de l'émission, donc je peux accéder aujourd'hui à ces éléments de programme qui à l'origine étaient des programmes de radio et de télévision à certainement, chacun a une heure différente, donc on n'est plus dans cette programmation imposée à l'origine qui fait que ces modes d'accès à ces éléments de programmation, à ces éléments, ces mêmes contenus, ne relèveront plus de ces activités dans les étudiants. La suite en donnée d'émissions comportant des images, des sons, animés ou non, c'est cela qui caractérise aujourd'hui donc les activités de radio et de télévision. Alors, l'évolution des techniques a fait que, je mentionnais tout à l'heure, la dernière intervention en date, ce ne sera pas la dernière, mais la dernière en date, est celle du 5 mars 2007, où dans une loi qui se veut d'adaptation à l'évolution des techniques, le législateur prend en compte la télévision mobile personnelle, la possibilité d'accéder aujourd'hui sur un récepteur qui continue pour certains d'entre eux à être appelé encore des téléphones, mais qui sert à beaucoup d'autres choses qu'à téléphoner. On peut ou on pourra, mais vous êtes probablement au moins aussi avancé, plus au courant que moi, des techniques et de leurs usages. On peut ou on pourra accéder donc à la télévision sur son téléphone portable, sur un lecteur MP3, sur un autre mode d'accès, un appareil numérique qui permettra donc d'accéder à des programmes de télévision. Je ne suis pas sûr qu'on puisse regarder un film dans sa totalité pendant une heure et demie sur un écran qui ferait 3 cm sur 2, mais au moins pour une image, une information, ça peut être une façon d'accéder à cette information. Donc le législateur français, dans cette volonté d'anticiper sur les choses qui pourtant déjà le dépassent, au moment où il adopte ces dispositions, elles sont déjà probablement déjà dépassées par l'évolution des techniques. Donc le législateur français prend en compte cette dimension technique nouvelle, ces usages nouveaux. Donc ce qui, pendant longtemps, donc, a justifié un statut particulier, la rareté des fréquences, c'est une réalité qui n'est plus aujourd'hui celle que l'on connaît. Et donc c'est ce qui, cette évolution des techniques, permet donc cette progression, ces modifications législatives. Donc, du fait de cette évolution technique, j'en suis toujours dans mon premier point sur l'adaptation à l'environnement technique. Je vous annonçais un plan en deux parties et deux sous-parties. Et donc, les deux sous-parties seront celles d'une libéralisation progressive. Une libéralisation progressive. Et puis, j'évoquerai dans une deuxième sous-partie, dans cette première partie, j'évoquerai les adaptations en cours, les adaptations les plus nouvelles. Ça sera périmé, ou était peut-être déjà périmé avant que je ne l'ai prononcé, mais ça sera périmé, donc il n'y aura peut-être pas de nécessité de garder ça ni en support papier, ni sur d'autres moyens. Ça sera déjà, au moins de faire de l'histoire du droit audiovisuel, déjà dépassé avant que cela ne soit accessible. Donc, une libéralisation progressive, dont je mentionnais tout à l'heure certaines des grandes dates de la radio-télévision, sans les rappeler toutes, en 1974. Une des étapes de ces évolutions qui préparent les évolutions suivantes a été donc celle d'une libéralisation partielle du statut de la radio-télévision. En 1974, on maintient encore le principe du monopole d'État de la radio-télévision, mais l'organisme public unique à l'époque, qui était l'Office de radiodiffusion télévision française, l'ORTF, est éclaté. On crée des structures qui restent des structures publiques, mais on introduit en 1974 la concurrence entre diverses entreprises du secteur public de la radio-télévision. Ça reste des entreprises du secteur public qui relèvent encore d'un régime de monopole d'État, mais cependant on crée des entreprises publiques différentes et même concurrentes, entre des chaînes de télévision concurrentes, entre éventuellement des programmes de radio émanant peut-être d'une même société, mais qui ont entre elles une certaine concurrence. Donc la droite libérale au pouvoir, c'était 1974, c'est l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing. Chaque changement de président, chaque changement de majorité politique, des alternances ont été marquées par ces évolutions législatives. Donc Valéry Giscard d'Estaing arrivant au pouvoir en 1974, marque son arrivée au pouvoir par l'adoption de cette loi de juillet 1974, c'est une des premières lois votées sous sa présidence, qui donc fait, on a utilisé cette formule, c'est la loi qui marque l'éclatement de l'ORTF, la structure unique qui existait jusque-là. On va voir que ces dernières années s'est reconstitué un pôle en tout cas public, de télévision au moins, très fort, qui est pratiquement la reconstitution de l'ORTF, qui avait été explosée, éclatée, en 1974. Donc, éclatement de l'ORTF, mais maintien cependant de ce régime de monopole d'État. L'affirmation du principe de liberté de communication, entraînant donc l'abandon du monopole d'État, c'est 1982. 81, François Mitterrand, une majorité socialiste, arrive au pouvoir, Marc aussi, donc, arrive au pouvoir de l'adoption d'une législation nouvelle, sauf qu'il n'était pas tout à fait évident qu'une majorité de gauche, plus étatiste, plus interventionniste, franchisse le pas. J'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être aussi quelques services à rendre, ou quelques remerciements à donner à ceux qui ont contribué à une campagne électorale, et donc, principe du monopole d'État, c'est une loi de 1982, juillet 1982, abandon du principe du monopole d'État, principe de liberté de communication. L'article 1er de cette loi de 1982, reprenant l'article d'une loi de 1880, 29 juillet aussi, la loi de 1880 sur la liberté de la presse, qui reste encore aussi un des éléments du droit français concernant le régime de responsabilité, sauf que elle concernait à l'époque la technique existante. Donc, la communication audiovisuelle libre, dit l'article 1er de la loi de 1982, mais on va le voir, certes, ça constitue cette étape essentielle de l'abandon du monopole, mais le monopole du secteur privé reste très étroitement réglementé, soumis à autorisation. Les choix faits des bénéficiaires d'autorisation ont été discutés, ou manifestement, était le résultat de certaines amitiés politiques, pour dire les choses crûment, ou schématiquement en tout cas. Donc, outre ce principe de liberté de communication entraînant l'abandon du monopole, un des traits marquants de cette organisation nouvelle de la radio-télévision en France depuis 1982, c'est la création d'une instance de régulation. La loi de 1982 met en place, à l'image très explicitement faite, de la FCC américaine, du CRTC canadien, donc c'est très expressément que cette dette-là, on faisait référence à ces deux structures, ces deux instances de régulation, met en place en 1982 la haute autorité de la communication audiovisuelle, qui était donc la première instance de régulation. Le sigle de la haute autorité, c'est ACA. Alors c'est pas le cri des rugbymen, c'est les Néo-Zélandais qui font l'ACA, c'est les Sud-Africains, c'est les Néo-Zélandais bien experts, là, donc il faut que je montre. C'est pas le ACA des Néo-Zélandais qui essaient d'effrayer faire sur le terrain, mais c'est cette haute autorité de la communication audiovisuelle donc, qui a été mise en place pour la première fois donc, en 1982. Elle a été remplacée par la loi de 1986 dans sa version d'origine par une autre instance. Ça permet comme ça de remettre en cause la nomination de certains de ceux qui étaient en place. En 1986, c'était la Commission nationale de la communication et des libertés, CNCL, et cette institution a été remplacée en 1989, janvier 1989, là aussi des alternances politiques, par l'instance qui est encore aujourd'hui en place, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Donc l'instance de régulation en France, aujourd'hui, s'intitule Conseil supérieur de l'audiovisuel, et c'est ces avatars, ces modifications de l'instance de régulation qui avait été donc mise en place à partir de 1982. Cette instance de régulation, elle a comme responsabilité essentielle, d'accorder des autorisations d'exploitation aux entreprises du secteur privé de la radio-télévision. Officiellement, les contraintes techniques qui demeurent limitées, même si elles sont aujourd'hui plus importantes en nombre qu'elles n'étaient jusque-là, justifient que, de façon à ce que une sorte de police des ondes soit respectée, que les fréquences attribuées aux ondes ne soient pas utilisées par d'autres dans des conditions qui entraîneraient le brouillage tel que personne ne pourrait rien entendre. Donc, cette régulation se manifeste notamment par l'octroi d'autorisation. C'est une des responsabilités principales de cette instance de régulation que de faire appel à candidature lorsqu'il y a des fréquences disponibles et de choisir celui des candidats qui lui ferait le mieux à même de satisfaire aux exigences, compter sa politique de programmation, diversification. Enfin, il y a quelques éléments qui doivent guider normalement l'instance de régulation dans le choix du bénéficiaire de l'autorisation. Outre l'octroi des autorisations, une autre des compétences essentielles de l'instance de régulation, c'est l'exercice de son pouvoir de sanction. Le non-respect des obligations contractuellement déterminées. L'instance de régulation passe une convention avec le bénéficiaire. bénéficiaire de l'autorisation, le non-respect des autorisations, des obligations, s'accompagne de l'exercice d'un pouvoir de sanction. Alors, le pouvoir de sanction, le plus fréquemment utilisé par l'instance de régulation, c'est des sanctions de caractère pécuniaire. Le non-respect des obligations s'accompagne donc d'une sanction de ce type-là. Parfois, on vient se demander si, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, si la sanction prononcée est suffisamment importante ou dissuasive par rapport au manquement constaté. Si vous commettez un manquement dans le contenu de formation, d'insertion de messages publicitaires à des moments où ça n'était pas permis, diffusion de nombre de films au-delà des quotas permis, enfin, ce type de manquement, si la condamnation prononcée est inférieure au bénéfice commercial que vous tirez du manquement, on n'est pas forcément dissuadé de ne pas continuer à manquer à ces obligations. Donc, il y a cette condamnation pécuniaire qui est le plus fréquemment prononcée. Le CSA peut prendre des mesures de suspension pour une période de temps limitée d'une autorisation d'exploitation ou d'un programme dans telle émission, tel propos a été tenu, et donc on va suspendre cette émission. Le CSA pourrait aller jusqu'à un retrait de l'autorisation. Il a prononcé de telles sanctions à l'égard de quelques stations de radiodiffusion. Vous avez connu ça aussi, si c'est bien compris. Le CSA a donc prononcé ce type de sanctions pour des stations de radiodiffusion. Par contre, à l'égard de sociétés de programmes de télévision, dont les investissements de ces sociétés de dimension nationale, en tout cas, sont beaucoup plus importants, il n'est jamais allé jusqu'à l'emploi de ce type de sanctions. Donc, une des caractéristiques, c'est donc l'existence de cette instance de tutelle dans cet élément d'une libéralisation progressive. Une autre des conséquences de cette libéralisation, c'est donc l'existence d'un double secteur. Comme tout à l'heure, l'abandon du monopole va amener un régime que l'on dit aussi dual ou dualiste. Et coexistence d'un secteur public et d'un secteur privé dans la télévision. L'abandon du monopole n'entraîne pas la suppression de tout secteur public de la radio-télévision. Subsiste un secteur public fort, privilégié à certains égards dans l'attribution des fréquences disponibles, dans le fait que ce secteur public, j'en dirais deux mots, n'est pas subordonné au dispositif anti-concentration qui s'impose au secteur privé de la télévision, ce qui a permis, je le disais tout à l'heure, la reconstitution d'une structure en matière de télévision au moins presque équivalente à ce qu'avait été l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française. Donc, coexistence d'un secteur public et d'un secteur privé de la radio-télévision. Ce secteur public qui se voit officiellement assigné des missions de service public, la satisfaction de l'intérêt général, ces notions essentielles telles que service public, mais qui sont les plus difficiles à comprendre ou à identifier. Le texte de la loi de 86, dans une des révisions intervenues postérieurement, essaie d'identifier certains de ces éléments de ces missions de service public de la radio-télévision, se caractérisant, dit le texte, par diversité, pluralisme, exigence de qualité, honnêteté, indépendance de la formation. Ce sont là quelques éléments constitutifs ou caractéristiques de cette notion de service public de la radio-télévision dont le secteur public devrait être le garant. C'est une notion de service public qui devrait constituer la mission même du service public. Il n'est pas sûr qu'il y ait de très grandes différences entre les obligations qui s'imposent au secteur public et les obligations qui s'imposent aux entreprises du secteur privé de la radio-télévision. Il y a certes quelques types de programmes qui, à l'évidence, ne sont pas suffisants d'attirer une audience telle que les annonceurs publicitaires puissent les financer, qui sont réservés ou ne sont programmés que par le secteur public, mais dans les textes au moins, les obligations qui sont faites au secteur public ne sont pas fondamentalement beaucoup plus lourdes que celles qui sont imposées au secteur privé de la radio-télévision. Donc ce secteur privé de la radio-télévision, donc, qui ne peut exister du fait de l'abandon de ce principe du monopole d'État de la radio-télévision, ce secteur privé donc qui reste cependant donc très étroitement contrôlé. Certains diront que ces éléments de réglementation et ces contrôles sont des garanties de la liberté. D'autres diront au contraire que de tels éléments de contrôle limitent cette liberté s'ils ne remettent pas en cause cette liberté. Les deux éléments essentiels, là encore, on en reste dans un système binaire, dans les parties sous-parties, sous-parties, les deux éléments essentiels de cette réglementation particulière du secteur privé de la radio-télévision, c'est le régime d'autorisation. Et c'est un dispositif anti-concentration dont je n'exposerai pas le détail des dispositions pour la raison que j'ai expliqué tout à l'heure de leur caractère fort complexe. Je vous dirai quelques mots, mais je ne parviendrai pas en quelques minutes à dégager la complexité même de ces dispositifs anti-concentration. Donc les autorisations nécessaires à l'exploitation de sociétés de programmes, de radio et de télévision privées, sans lesquelles donc, cela ne peut être fait. Donc ces autorisations qui sont délivrées par le CSA et qui s'accompagnent donc de la détermination de sommes de contraintes ou d'obligations. Le CSA fait appel à la candidature lorsqu'il y a des fréquences disponibles et les candidats proposent des petites programmations, s'engagent sur les modes de financement, font preuve de capacité financière et c'est cela qui, officiellement en tout cas, détermine un centre de régulation dans le choix qu'elle fait, cette instance qu'elle fait des bénéficiaires d'autorisation. Ces autorisations sont limitées dans le temps. Théoriquement, l'autorisation donnée en matière de télévision l'est pour 10 ans. L'autorisation donnée en matière de radio sonore l'est pour 5 ans. Mais ces autorisations sont renouvelables avec un privilège pour les sortants d'une reconduction qui n'est pas tout à fait automatique mais qui est sans concurrence. Et puis on verra aussi que les dernières évolutions législatives, cette loi du 5 mars 2007, dans le passage au numérique, l'analogique au numérique, accorde un privilège aux exploitants actuels, officiellement, nous dit-on, pour compenser la perte de l'avantage de l'autorisation donnée pour une période de temps mais qu'on va prolonger, ou pour compenser les frais nécessaires à ce passage de l'analogique au numérique en matière de télévision, ce qui a été très contesté sur cet aspect de cette avantage d'une reconduction qui ne va pas contribuer à la diversité puisque c'est les gens en place que l'on va renouveler. Donc, autorisation limitée dans le temps et un dispositif anti-concentration qui vise donc à garantir le pluralisme, condition de liberté, diversité. Alors, l'arsenal, je vous disais tout à l'heure, l'arsenal en la matière est fort compliqué, des limitations de parts de capital comme même personne, comme un groupe peut détenir dans plusieurs sociétés, limitation du nombre d'autorisations au niveau national, au niveau local, il y a un arsenal juridique fort compliqué. Si certains, tout à l'heure, veulent m'amener sur ce terrain-là à expliquer un peu plus précisément les choses, j'essaierai peut-être de le faire, mais sans garantir de parvenir à l'expliquer avec toute la cohérence ou toute la clarté que l'on devrait y trouver, mais qui n'y s'y trouve peut-être pas. Donc, les évolutions dans ces domaines-là, quant à la durée des autorisations, comme s'agissant du dispositif en déconcentration, la dernière loi du 5 mars 2007, donc relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du futur, sur ces deux aspects-là, la loi du 5 mars apporte des modifications qui confirment la situation des avantages donnés aux actuels bénéficiaires de ces autorisations. Alors, ces autorisations, donc, j'ai indiqué tout à l'heure, l'appel à candidature fait par le CSA, le choix du bénéficiaire, et donc ces éléments nouveaux qui découlent donc de cette loi du 5 mars 2007 pour arriver déjà peut-être certaines adaptations en cours à cette évolution des techniques. Donc après avoir déjà longuement évoqué dans une première sous-partie cette libéralisation progressive, je vais maintenant dire quelques mots, donc cette adaptation en cours du fait donc des lois les plus récentes, au moins une loi de juillet 2004 et cette dernière loi en date du 5 mars 2007, mais qui ne vient que apporter des modifications au texte qui reste le texte de référence, la loi du 30 septembre 1986. Alors, s'agissant de l'autorisation, ces adaptations concernent les conditions même d'attribution de ces autorisations et concernent aussi donc la durée de ces autorisations. Alors, les conditions même d'attribution de ces autorisations, les dispositions concernant la télévision mobile personnelle, concernant la télévision haute définition, télévision mobile personnelle, TMP, télévision haute définition, la TVHD, les dispositions de la loi de mars 2007 prévoient que l'instance de régulation, donc qui est le CSA, devra tenir compte dans le choix qu'il fera des bénéficiaires de ces modes de diffusion nouveaux, avant que tout le monde n'en vienne de toute façon à la diffusion en mode numérique. Le CSA devra tenir compte à la fois des projets ou des engagements des candidats quant au type de programme qu'ils diffuseront, mais aussi quant à leurs engagements concernant la couverture du territoire. On ne va accorder des attentions qu'à ceux qui ont les moyens, les capacités financières d'assurer une diffusion sur la plus grande partie du territoire. Donc ces deux aspects sont pris en compte pour ces deux modes de diffusion, télévision mobile personnelle, donc réception sur ces téléphones ou d'autres supports numériques, et télévision haute définition, devront permettre à la fois une amélioration de la qualité des images et de combiner avec ces images d'autres modes, d'autres éléments de contenu. Soit des messages d'autorisation, comme la durée d'autorisation. Je disais tout à l'heure, les autorisations sont en matière de télévision normalement accordées pour 10 ans renouvelables, mais la loi de mars 2007 prévoit là encore, au bénéfice des exploitants actuels, pour la raison que j'indiquais tout à l'heure officiellement, la raison officiellement donnée en tout cas, compenser les engagements financiers nécessaires au passage du système de télévision analogique au système de télévision en mode numérique, le secteur a prévu que les bénéficiaires de l'autorisation verraient cette autorisation normalement attribuée pour 5 ans, prorogée, donc prolongée de 5 ans, en plus des 10 ans, dans les conditions qui ont été contestées, en disant mais ça ne permettra pas cette remise sur la table, sur le marché, éventuellement, ce choix de nouveau bénéficiaire d'autorisation, de même que le dispositif anti-concentration qui avait déjà été modifié récemment, l'est aussi au profit des exploitants actuels qui se voient accorder, donc, s'agissant de télévision numérique, au moins un canal supplémentaire d'emblée, sans autres exigences, aussi pour compenser, officiellement nous dit-on en tout cas, les frais nécessaires de ce passage du système analogique au système numérique. Le dispositif de concentration se trouve ou contesté ou compliqué encore par les dispositions nouvelles quant au seuil de population touchée ou quant au nombre de canaux qu'une même société ou qu'un même groupe pourrait exploiter, hein, que ce soit la télévision numérique, le passage à la télévision mobile personnelle, cela fait tout ça donc l'objet de quelques éléments d'adaptation qui ne contribuent pas à clarifier les textes et qui ne contribuent pas non plus à diversifier les exploitants. C'est tout à l'heure ces dispositions de concentration qui ne s'imposent pas au secteur public de la radio et de la télévision, qui permet au groupe France Télévisions de contrôler ou de diffuser des programmes en nombre tel qu'aucune société du secteur privé ne pourrait le faire. Le secteur public de l'audiovisuel, télévision aujourd'hui, France Télévisions, c'est France 2, France 3, France 4, France 5, Radio France Outre-mer, donc c'est 5 programmes de télévision en mode analogique pour le moment, alors qu'une société de programmes de télévision du secteur privé ne peut exploiter qu'un seul programme. Donc il y a des équilibres ou faveurs accordées au secteur public de la télévision, de même que le secteur public de la radiodiffusion, c'est sur notamment de Radio France. Radio France, c'est une seule société, mais avec des programmes de type programme d'information généraliste France Inter, un programme culturel France Culture, un programme musical France Musique, une chaîne d'information continue France Info, des stations locales de rediffusion. C'est là aussi un nombre d'audiences touchées que le dispositif anti-concentration ne permet pas au secteur privé d'atteindre. Donc il y a ce déséquilibre dans la concurrence faite entre le secteur public et le secteur privé, un déséquilibre que les instances communautaires européennes, dont ces instances ont été saisies, en tout cas si elles n'ont pas sanctionné, mais qui a aussi amené à redéfinir plus précisément cette notion de service public de la radio-télévision, de façon à ne pas tomber sous le coup d'une sanction communautaire, parce que certaines entreprises du secteur privé de l'audiovisuel, français comme quelques autres pays d'ailleurs, avaient contesté devant les instances communautaires le fait que ces entreprises du secteur public soient financées à la fois par la redevance et par la publicité. Double financement, et ce que cherchaient les sociétés du secteur privé, cela aurait été éventuellement d'être les seuls bénéficiaires d'un financement privé, parce qu'une part du marché est aujourd'hui donc, pas confisquée, mais profite au secteur public de la justice. Ce que je viens de dire en quelques mots de la jurisprudence de la Cour de justice peut me servir de transition avec ce que je voudrais plus brièvement exposer dans une deuxième partie de ce qu'est aujourd'hui l'environnement européen du droit français de l'audiovisuel. Le cadre technique est important, la recherche d'adaptation à l'évolution technique est importante, mais l'environnement européen constitue assurément aussi une des explications de la réalité actuelle de l'organisation de la radio-télévision. Dès lors qu'il y a dans les instances européennes, parce que la coordination elle se trouve à ce niveau-là aujourd'hui, au niveau régional, que ce soit l'Europe économique, l'Union européenne, que ce soit l'Europe des droits de l'homme, la Convention du Conseil de l'Europe, il y a là des éléments qui obligent les autorités françaises à mettre notre droit national en conformité avec ces principes posés par les textes ou l'interprétation que les juridictions de ces deux instances européennes ont mis en place. Alors, ça va être l'objet d'une deuxième partie plus brève, et je reviendrai évidemment par la suite, si question il y a sur certains points, parce que trop rapidement sans doute, j'ai tenté d'exposer de certaines des caractéristiques du droit français dans l'environnement technique. Donc, une deuxième partie sur l'adaptation à l'environnement européen. Donc, je rappelle l'exemple de ces deux structures européennes que sont l'Europe économique, l'Europe des 27 actuellement, 6 à l'origine, en 57 le marché commun, donc l'élargissement progressif, l'Europe essentiellement économique du traité de Rome, marché commun, communauté européenne, Union européenne. Les deux notions ne sont pas exactement identiques, enfin globalement, on peut dire cela comme ça. Et puis l'Europe plus des droits de l'homme, des libertés, de la culture, qui est l'Europe du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est 46 États membres, en l'état actuel des choses. Donc, les 27 États membres de l'Union européenne sont tous membres du Conseil de l'Europe, mais il y a le Conseil de l'Europe, ce sont d'autres pays. Et certains des textes, peuvent toucher l'ensemble de ces pays, et d'autres ne toucher qu'une partie, la France étant évidemment partie à ces deux organisations européennes. Donc, les préoccupations ont inspiré ces textes, ou les conséquences qui découlent de ces organisations européennes se manifestent aussi quant à une libéralisation progressive de ce secteur de la radio-télévision. Vous pouvez, à titre d'illustration, vous en donner quelques dates ou quelques références. Et puis, pour terminer, s'intéressera à quelques adaptations en cours, des adaptations les plus récentes, et notamment l'élaboration d'une directive communautaire, j'en évoquais tout à l'heure, le long processus, les choses sont pratiquement abouties, mais il faut encore quelques officialisations des accords obtenus sur le texte aujourd'hui en vigueur dans le cadre de l'Union européenne. Donc, une libéralisation progressive et les adaptations en cours. Une libéralisation progressive qui se manifeste dans ces deux structures européennes à préoccupation ou à vocation quand même différente, un principe de liberté de communication, à l'évidence, plus proche des préoccupations de l'Europe du droit de l'homme, de l'Europe du Conseil de l'Europe, et un libéralisme économique, à l'évidence, plus dépendant de l'organisation économique qu'est l'Union européenne. Ce principe de liberté de communication et ce libéralisme économique donc seront deux points dans cette sous-partie sur la libéralisation progressive. Le principe de liberté de communication. Le Conseil de l'Europe, l'Europe des droits de l'homme, a été le lieu d'élaboration d'une convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le texte est convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et pour comprendre qu'il s'agit d'un texte européen, ce n'est pas un titre officiel, mais on l'évoque généralement sous le titre de précédente, elle comporte l'article 10, qui est relatif à la liberté d'expression, parmi les autres droits et libertés qui sont consacrés dans ce texte. Cet article 10 énonce ce principe de liberté de communication, mais tenant compte de ce qu'étaient les techniques en 1950. Cet article 10 prévoit cependant que les États peuvent soumettre les entreprises de radio et de télévision à un régime d'autorisation. Ce qui, dans le contexte intellectuel, idéologique, politique d'aujourd'hui, apparaît assez contraire au principe de liberté. Ce principe sur lequel les équipes de radio et de télévision peuvent continuer d'être soumises, comme les équipes de cinéma, continuent d'être soumises à un régime d'autorisation, le texte depuis 1950 n'a pas été modifié. En tout cas, cet article 10, il y a eu depuis, ce sont des textes qui sont venus se rajouter à cette convention. Dans le cadre européen, on évoque alors des protocoles additionnels à la convention européenne, mais il n'y a jamais eu qui ait modifié cet article 10. Donc, bien que posant le principe de liberté de communication, l'article 10 de la convention européenne prévoit que les activités de radio et de télévision peuvent continuer à être soumises à un régime d'autorisation, et j'ai oublié tout à l'heure que le régime d'autorisation pouvait compter de certaines des techniques, en tout cas, de celles qui relèvent de la radio-télévision, peut-être pas de certains autres services de médias audiovisuels qui n'ont pas cette petite programmation, qui n'ont pas cette contrainte des fréquences disponibles. Donc ce principe reste mentionné expressément dans le texte de la Convention européenne. Dans le cadre de cette organisation européenne qui est le Conseil de l'Europe, il existe une des caractéristiques du droit européen par rapport au droit international de type universel, c'est que ces deux institutions européennes comportent des juridictions. Des juridictions que les simples particuliers peuvent saisir. En droit international, normalement, en droit international de type universel, les individus, les particuliers ne sont pas véritablement sujets de droit international. Il n'y a pas de véritable juridiction internationale de type universel. Dans le cadre européen, donc, les particuliers peuvent saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Un particulier, c'est un simple citoyen, personne physique, mais ça peut être aussi une société. Et donc, ces règles de droit national respectueuses du droit européen peuvent donner lieu à contrôle, respectueuse ou non, à contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors on a en matière de radiodiffusion une jurisprudence qui a évolué ou une interprétation faite de ces principes posés qui aujourd'hui se rapproche, donc comme j'indiquais, d'une libéralisation en tout cas de ce secteur de la radio-télévision faisant du principe de liberté de communication. On verra tout à l'heure ce que le libéralisme économique peut avoir aussi comme influence dans cette organisation de la radio-télévision. Alors, dans les premières années, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie de litiges entre des organisations de télévision qui contestaient devant elle le maintien d'un régime de monopole d'État, dans les premières années, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'article 10 de la Convention autorisait les États à maintenir un régime de monopole d'État en matière de radio télévision. Et puis, l'évolution des techniques permettant la multiplication des canaux, la Cour européenne des droits de l'homme va considérer au contraire que le maintien d'un régime de monopole d'État est trop restrictif de la liberté de communication et qu'il y a d'autres moyens pour les États d'assurer cette police des ondes, cette bonne utilisation, cette régulation des fréquences, que de maintenir un régime de monopole d'État. Alors, illustration jurisprudentielle de cette évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, dans un arrêt de 1990, dans une affaire qui concernait la Suisse. La Cour européenne des droits de l'homme valide, en 1990 encore, l'interdiction faite à une société de télévision par câble de retransmettre sur le territoire suisse des programmes de télévision, des programmes de radio en provenance d'un émetteur qui était installé en Italie, parce que le principe du monopole d'État de la radiodiffusion qui existait encore en Suisse ne permettait pas l'installation sur le territoire suisse d'un émetteur de radiodiffusion privée. L'exploitant d'un réseau câblé retransmettant sur le territoire suisse des programmes en provenance d'un émetteur italien conteste devant la Cour européenne des droits de l'homme les mesures prononcées à son encontre par les autorités suisses et la Cour européenne des droits de l'homme, dans cet arrêt Groupera Radio contre Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme considère que l'article 10 de la Convention permet aux États de conserver le contrôle des actifs de radio-télévision et que cela est donc justifié, même si d'autres États, dit la Cour européenne, qui le constate alors, ont déjà franchi le pas de l'abandon du principe de monopole d'État, la Cour européenne légitime ici, valide ici, ce maintien, en 1990 encore, de ce principe du monopole d'État. Cet arrêt groupera contre le Suisse, donc 1990. Quelques années après, en 1993, dans une affaire concernant l'Autriche, la Cour européenne va donc basculer cette évolution jurisprudentielle. La Cour européenne, mais là, qui est liée aussi à l'évolution des techniques, dans un arrêt concernant l'Autriche, en novembre 1993, la Cour européenne va considérer que le maintien du principe du monopole d'État de la radiodiffusion est contraire au principe de liberté d'expression tel que posé par l'article 10, même s'il continue de prévoir dans cet alinéa l'existence, enfin la possibilité en tout cas pour les États de soumettre les activités de radio et de télévision à autorisation. La Cour européenne considère qu'il reste de la responsabilité des États de soumettre à contrôle les activités de radio et de télévision, mais considère que le maintien d'un monopole d'État est excessif et que les autorités nationales ont des moyens moins contraignants, moins restrictifs de la liberté que de prendre des mesures aussi graves que d'interdire l'existence de cette privée de la radiodiffusion. Dans le contrôle auquel la Cour européenne des droits de l'homme se livre, c'est un contrôle en trois temps, trois étapes. En droit d'auteur, on évoque le test des trois étapes pour apprécier certaines exceptions au droit d'auteur. En droit européen, international ou national, on peut utiliser aussi cette formule du test des trois étapes. Dans le contrôle auquel la Cour européenne se livre, l'ingérence est-elle prévue par la loi? Oui, il y a un texte de droit suisse, de droit autrichien, qui prévoit un régime de monopole d'État. Cette ingérence répond-elle à un but légitime? Oui, ça peut être légitime que de vouloir faire en sorte que un service culturel, des obligations de service public, donc, mais troisième étape, c'est généralement sur ce point-là que les dispositions nationales contestées peuvent être considérées par la Cour européenne comme non conformes au principe posé, l'ingérence était-elle ou non nécessaire dans une société démocratique? But prévu par la loi, but légitime, nécessaire dans une société démocratique, et c'est là que la Cour européenne dit, certes, un contrôle étatique des activités de radio et de télévision est nécessaire ou justifié, mais pas pour aller jusqu'à un régime de monopole d'État qui est trop restrictif de la liberté d'expression. Donc, en 1993, la Cour européenne, au contraire, donc, par rapport à ce qu'elle avait dit quelques années auparavant concernant la Suisse, la Cour européenne considère en 1993 qu'il y a d'autres moyens moins contraignants qu'un régime de monopole d'État de réglementer, réguler ces activités de radio et de télévision, et donc sanctionne les autorités d'État autrichiens pour avoir maintenu ce régime de monopole d'État. Donc le principe de liberté de communication, avec les de la Convention européenne, Conseil de l'Europe, le libéralisme économique, les textes européens, l'Union européenne, le traité de Rome, le libéralisme économique, liberté d'entreprise, libre concurrence, libre circulation des produits, libre prestation de services, ce sont tous ces éléments-là qui, dans le cadre de cette organisation économique européenne, s'appliquent aussi aux activités de radio et de télévision qui sont considérées comme des produits ou des services. Libre prestation de services, des programmes de télévision sont considérés comme étant des services. La définition des produits ou des services en droit européen, c'est là aussi, comme souvent dans les dictionnaires, on vous dit qu'un produit, c'est ce qui n'est pas un service, et qu'un service, c'est une activité qui n'est pas un produit. Donc, les programmes de télévision, un film sur un support, un disque ou une CD, c'est un produit, c'est une marchandise, c'est tangible, et ça relève de la catégorie des produits. Par contre, un programme de télévision, ou un programme ou un message qui circule sur l'Internet, ça relèvera de la catégorie des services. Donc, les principes de libre prestation de services s'appliquent aussi aux activités de radio et de télévision, et donc, on doit, dans le cadre de cette organisation européenne, trouver l'application de ces principes. Donc on se référera au traité de Rome lui-même, le texte d'origine, la jurisprudence de la Cour européenne, de la Cour de justice, pour ne pas confondre les deux juridictions. Donc ici c'est la Cour de justice des communautés, CJCE, la Cour de justice des communautés, qui elle aussi a eu à se prononcer et à évoluer dans sa jurisprudence pour faire application à ce secteur des services audiovisuels, de ces principes de libre prestation de services. Dans un arrêt qui date, enfin qui constitue une des premières dates, pardon, je ne veux pas trop vite.
Non, ça va, vous pouvez juste préciser la CJCE.
C'est le cours de justice des communautés européennes. C'est la juridiction qui, dans le cadre de l'Union européenne, l'Europe économique, l'Europe des 27, est la juridiction qui peut être saisie pour non-respect ou contester par rapport au texte posé par le traité de Rome. Donc, il y a deux juridictions européennes. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe, CEDH, qui vise au respect de la Convention européenne des droits de l'homme, l'Europe des 46 aujourd'hui, et donc dans le cadre de l'Union européenne, du marché commun, sur les termes de GIV, marché des communautés européennes, Cour de justice des communautés européennes, c'est celle qui vise donc la Cour de justice des communautés européennes à Strasbourg. La Cour européenne des droits de l'homme est à Strasbourg et la Cour de justice des communautés européennes est située à Luxembourg. Voilà, les deux institutions. Donc, la Cour de justice des communautés européennes donc, a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur des affaires concernant ses activités de radio et de télévision. Et le premier arrêt classique évoqué, c'est un arrêt Sacchi, S-A-C-H-I, qui date du 30 avril 1974, le 30 avril 1974, dans lequel la Cour européenne donc, est amenée à se prononcer déjà sur la conformité ou non des dispositions législatives nationales concernant donc, la réglementation des activités de radio-télévision. Rien dans le traité de Rome ne s'oppose à ce que les États membres soustraient les émissions de radio-télévision au jeu de la concurrence en conférant le droit exclusif d'un monopole qui n'est pas compatible avec le traité, dit la Cour dans cet arrêt Sacchi. Et puis, les choses vont là aussi évoluer dans des arrêts futurs de la Cour de justice des communautés, un arrêt de 94 concernant les Pays-Bas, et puis des arrêts de 96 à la même date, l'un concernant la Belgique et l'autre le Royaume-Uni, où la Cour de justice considère donc le fait de maintenir un régime d'autorisation préalable à la retransmission sur le territoire de ces pays, Belgique ou Royaume-Uni, de programmes en provenance d'une télévision étrangère serait contraire au principe de libre prestation de services. Donc pendant un temps, dans le premier temps, on admet que les États continuent de contrôler la réception sur leur propre territoire de programmes en provenance de l'étranger au nom d'une politique nationale, et puis cette normalisation, banalisation des activités de radio et de télévision qui sont désormais soumises donc, au règne de droit commun de libre prestation de services sans que donc, les États puissent continuer à s'y opposer. Alors, cette libéralisation de ces activités de radio et de télévision, ou cette application à ce secteur d'activité des principes communautaires posés dans le traité de Rome lui-même, principes généraux, il ne faut pas référence aux activités de radio et de télévision, mais ces principes ont été confirmés aussi dans des textes spécifiques. Dans le cadre européen, il y a le texte constitutif du traité, et puis il y a tout ce que l'on appelle en droit européen communautaire, l'Europe économique, ce qu'on appelle le droit dérivé. Le droit dérivé, c'est un certain nombre de directives communautaires. Les directives sont des textes élaborés par les institutions communautaires et qui obligent les États à mettre en œuvre, dans le cadre national, les principes posés. Les États ont la liberté de choix, très encadré, des moyens par lesquels ils vont assurer, on utilise ce terme dans le jargon de droit européen, d'assurer la transposition en droit interne des principes communautaires. Donc, le traité de Rome énonce ce principe de libre prestation de services, de libre concurrence. Dans le secteur de la télévision, cela va donner lieu à une loi, à une directive concernant la télévision. Les États membres en assurant ensuite la transposition dans le propre droit interne. Alors, en matière de télévision, dans le cadre européen, la même année, et les communautés européennes et le Conseil de l'Europe ont adopté un texte sur la télévision. Dans le cadre de l'Europe économique, c'est une directive dite Télévision sans frontières, la directive TSF d'octobre 1989, qui précise dans le secteur de la télévision, rappelle ou conforte ce principe de libre prestation de services, moyennant quelques éléments de réglementation que les États devront mettre en œuvre, les éléments de réglementation de la directive comportant essentiellement des éléments concernant la réglementation de la publicité, l'aspect économique de la Russie européenne, quelques obligations de portée assez limitées sur une politique culturelle nationale ou européenne, et puis quelques protections de l'enfance, c'est les points essentiels de cette directive communautaire. La même année, dans le cadre du Conseil de l'Europe, de façon tout à fait parallèle, a été élaborée une convention télévision transfrontière, parce que là, dans le cadre de l'Europe, le droit de l'homme frontières subsistent. Donc, si vous voyez évoquer ces deux textes, une directive Télévision sans frontières et une convention du Conseil de l'Europe qui sont pratiquement du copier-coller de l'un ou l'autre de ces textes. Donc, on a précisé par ces textes-là les principes posés et par le traité de Rome et par la Convention européenne. Alors, c'est cette adaptation la plus récente ou encore en cours de la directive européenne. C'est par là que je voudrais terminer cette première présentation avant de nous livrer, autant que pour, avant de nous livrions ensemble à une réflexion commune. Ce sont quelques éléments d'adaptation que je dois considérer encore comme en cours, puisque le texte n'a pas été définitivement adopté. Pratiquement, il est à un stade d'élaboration tel que tous les États se sont prononcés, que ça n'est plus aujourd'hui qu'une formalité, mais encore quelques étapes d'adaptation ou d'adoption qui doivent être suivies. Donc c'est quelques éléments d'adaptation en cours que je voudrais évoquer dans les quelques mots pour terminer donc ce survol de quelques-uns de ces principes, de ces éléments d'actualité du droit français ou dans le contexte européen. Cette adaptation donc de la directive Télévision sans frontières, le texte adopté en 1989, qui a déjà été l'objet d'une première directive de révision partielle en 1997, et qui devrait donc, le texte de la directive prévoyant dès l'origine des réexamens successifs. Donc c'est cette directive qui, théoriquement, devrait être adoptée avant la fin de cette année 2007, définitivement adoptée avant la fin de cette année 2007. Alors, les adaptations de cette directive Télévision sans frontières, qui d'ailleurs changera de nom, donc elle ne s'appellera plus directive Télévision sans frontières, mais directive relative aux services de médias audiovisuels, SMA, c'est le sigle qui sera donné à cette directive qui restera évidemment sans frontières. Donc c'est une des manifestations de cette adaptation et cette évolution de la directive qui veut donc englober au-delà de la télévision telle que définie tout à l'heure comme étant programmation, cette grille de programme, ces émissions diffusées à une heure donnée, à un moment donné, ce qui était caractéristique de la télévision, dans la définition que les instances communautaires m'avaient demandé, ou sur lesquelles m'avaient demandé de réfléchir sur la notion même de la télévision, on s'est bien rendu compte qu'il y avait toujours d'autres modes d'accès à des contenus audiovisuels que la seule télévision, la télévision à la demande, d'autres moyens encore qui permettent d'accéder à des mêmes types de contenus, et qui ne sont plus donc des éléments d'une programmation caractéristique des activités de télévision, dans des conditions telles que le besoin a été ressenti peut-être d'élargir le champ, l'objet de cette directive télévision à ces services de médias audiovisuels. Alors dans le texte de la directive qui, je pense, est prudent cependant, qui ne devrait plus être modifié, qui devrait donc être le texte être adopté définitivement, un service de médias audiovisuels est défini comme tout service dont l'objet principal est la fourniture d'images animées, combinées ou non à du son, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer par des réseaux de communications électroniques. Sont concernés, dit la directive, tous les services audiovisuels, qu'ils soient programmés, c'est-à-dire la télévision, ou qu'ils soient des services à la demande. Donc il y a des modes d'accès à des contenus audiovisuels qui ne sont plus aujourd'hui la seule télévision. Dès lors que une réglementation est élaborée pour des télévisions, est-ce qu'il faut ou non adopter aussi des éléments de réglementation à des modes d'accès différents, à des contenus qui pourtant sont à peu près de même nature, mais le simple fait qu'il y ait un décalage, une liberté, l'accès à ces contenus se fait par chacun des utilisateurs, à n'importe quel moment, donc c'est cela qui distingue la télévision de ses autres modes d'accès à des contenus audiovisuels. Cet élargissement du champ d'application de la directive peut apparaître justifié, mais inversement, on peut se demander si ça n'entraîne pas une sorte de dilution des éléments de réglementation, parce qu'il y a certains éléments de réglementation, lorsqu'on évoque la durée des programmes en matière de télévision, lorsqu'on évoque le nombre de, un pourcentage, une proportion d'œuvres européennes ou nationales, est-ce que ces éléments de réglementation ont encore un sens lorsqu'il n'y a plus de programmation? Je peux dire, une société de programme de télévision n'a le droit de diffuser que 12 minutes de publicité par heure. Ça, je peux le poser pour une société de programme qui a une programmation qui s'étale dans le temps. Mais si un seuil de ce type-là, lorsque l'accès n'est plus dans l'émetteur, que nous n'avons plus maîtrise du contenu, que chacun peut accéder quand il veut ou au moment où il veut, de même que un autre élément essentiel de cette politique européenne concernant cette défense d'une identité culturelle européenne, ses proportions d'œuvres européennes, cinématographiques ou audiovisuelles européennes et nationales, est-ce que ça a encore un sens d'imposer ça à ce qui est peut-être que, en réalité, une base de données, chacun choisit, si je veux regarder que des films américains, il n'y a pas un policier qui va être derrière moi pour voir si chez moi je vais respecter hein, 60% d'œuvres européennes dans le temps, le type de programme que je vais regarder. Donc, cette extension de l'objet ou du champ d'application de la directive Télévision sans frontières, devenue directive service des médias audiovisuels, est-ce que ça a encore un sens de prétendre transposer ou adapter à ces modes d'accès, ces formes de consommation, entre guillemets, ces éléments qui avaient un sens ou qui sont justifiés? Pourtant, c'est ce que semble vouloir faire, mais en l'assouplissant cependant, cette directive, donc, venant modifier la directive Télévision sans frontières. Donc, un des objets essentiels de cette directive en cours d'élaboration, pratiquement élaborée, en cours d'adoption définitive, ces éléments essentiels vont concerner l'assouplissement des règles relatives. Alors, le texte évoque les communications commerciales, ce qui englobe la publicité, le parrainage, le téléachat, mais aussi le placement de produits. Le placement de produits, c'est le fait que on met là sur la table une eau minérale gazeuse ou un soda ou autre chose, et puis c'est pas de la publicité, c'est pas dans un créneau, pas présenté comme de la publicité, mais alors il y a assurément la production de films, la production de l'audiovisuel, c'est un des modes de financement parmi d'autres de ces activités-là. Et alors la réglementation aujourd'hui en vigueur semble assez incohérente, puisque on continue de poser que la publicité, le téléachat doivent être aisément identifiables par les téléspectateurs. On nous dit que la publicité et le téléachat clandestins, c'est-à-dire les messages publicitaires qui ne sont pas présentés comme tels, sont interdits, mais inversement, la directive autorise le placement de produits. Est-ce qu'on peut à la fois dire que la publicité doit être présentée comme telle et autoriser le placement de produits et dire que le placement, le téléspectateur peut se transformer du placement de produits? La pratique, si tel acteur, tel rôle dans la voiture automobile de telle marque, est-ce que cette voiture a été mise à la disposition de la production? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'il fallait bien avoir une voiture? Est-ce qu'il consomme telle boisson? Est-ce qu'il fume telle cigarette? Est-ce que c'est le hasard? Ou est-ce qu'il y a un placement où on met à sa disposition? Donc il y a là, me semble-t-il, certaines incohérences dans les éléments de réglementation concernant cette transparence, cette identification de la publicité en tant que telle, dès lors qu'on admet ce placement de produit qui me paraît pouvoir relever tout autant de la qualification de publicité clandestine. De même qu'on continue de maintenir des éléments de réglementation concernant la durée, en minutes, dans une heure donnée, des messages de publicité, mais si, un, c'est une question de produit, ou deux, s'il s'agit de services d'accès libre à la demande, chacun se fait son propre programme, on ne peut pas imposer, je vois pas quel sens ça peut avoir, de prêter élargir ou de prétendre élargir à ces services de médias audiovisuels à la demande des dispositions concernant donc la durée ou la limite dans le temps du nombre des messages de publicité. Donc, il m'apparaît que cette évolution ou cette extension du champ d'application de cette directive de la télévision à l'ensemble des services de médias audiovisuels, inversement, n'a pas grande portée ou efficacité sur certains modes d'accès à des contenus qui restent des contenus audiovisuels et dont la maîtrise échappe à ceux qui détiennent pour être le choix du consommateur, entre guillemets, individuel, pour lesquels et les politiques de quotas et des réglementations de publicité ne m'apparaissent plus tout à fait adaptées ou justifiées. Donc, en quelques mots, pour essayer de résumer, pour rappeler ce que j'ai essayé de dire, cette évolution des techniques, donc qui permet cette multiplication des canaux de diffusion, qui conduit donc à remettre en cause d'arguments jusqu'à utiliser de rareté des fréquences, cette rareté qui avait jusqu'ici servi à justifier cette particularité du droit de l'audiovisuel, mais qui, cette particularité, au-delà des explications techniques, découlait aussi probablement de préoccupations culturelles, qui sans doute justifient encore que certaines obligations soient maintenues à l'égard de ces organismes, en tout cas de radio ou de télévision. Il est vrai que la dimension internationale de la communication fait que les autorités nationales ne peuvent plus seules, de façon efficace, imposer des éléments de réglementation, sauf à courir le risque de ce qu'on appelle une délocalisation. Si la loi française, par exemple, se montre beaucoup plus restrictive que n'est la loi anglaise, je vais quitter le territoire français pour aller m'installer en Grande-Bretagne et bénéficier par ailleurs du principe de libre prestation de services, donc je pourrais arroser entre guillemets le territoire français à partir de, du Luxembourg ou de la Grande-Bretagne d'ailleurs, ou par voie satellite, ou par d'autres canaux encore aujourd'hui, sans me préoccuper beaucoup de la loi française, dès lors que le principe de libre prestation de services ne permet pas aux autorités françaises de contrôler les programmes en provenance, ne valent pas juridiquement et ne permettent pas de fait de contrôler les programmes en provenance d'un pays voisin, dès lors que, en tout cas, en application des textes européens, dès lors que ces programmes sont respectueux du minimum européen qui est posé par cette directive ou par cette convention du Conseil de l'Europe. Donc, multiplication des canaux, me semble-t-il, réduction nécessaire ou inévitable, des éléments de réglementation ou impossibilité pour les États de continuer à se montrer plus exigeants que ne le sont les voisins, leurs voisins, parce que de toute façon, ils ne pourront pas s'opposer à la réception sur leur propre territoire national de programmes en provenance de l'étranger. Donc cette atténuation, sans doute, de la spécificité de ce droit de l'audiovisuel, est-ce que cela doit conduire cependant à renoncer à toute particularité ou spécificité de ce droit, il y avait quelques préoccupations de service public, de protection d'une identité culturelle nationale ou européenne qui pouvait expliquer ou justifier aussi ces éléments de réglementation. Et si chacun des États membres ou si les institutions communautaires européennes font abandon de ces principes auxquels elles tenaient jusque-là, ou elles disaient tenir jusque-là, je vois comment les instances européennes, qui ont été à la pointe du combat avec le Canada d'ailleurs, dans les négociations de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à la pointe d'un combat pour la préservation d'une identité culturelle, provisoirement au moins d'une exemption culturelle, si on ne met plus en œuvre dans le cadre national ou dans le cadre européen de tels principes, de telles préoccupations, je ne vois pas qu'on puisse, dans les négociations internationales, continuer à poser de telles exigences. Coopération internationale européenne, mais préoccupation sans doute limitée, au point qu'on peut être amené à se demander, dans cette dimension-là aussi, si le droit n'est pas déjà devenu une sorte de fiction, d'illusion. Je ne vois pas, parce que sur ce point d'interrogation, pas trop pessimiste, mais ce qui serait davantage provocateur, une réflexion commune. Pardonnez-moi d'avoir abusé de mon temps de parole, de vous avoir abruti de tas de choses un peu compliquées, peut-être aussi que cela sera l'occasion, non pas d'un jeu d'échange de questions-réponses, mais d'une réflexion commune. Je pense que chacun peut avoir des éléments de réflexion utiles et que j'en tirerai grand profit aussi de vos réactions, réflexions. Donc, un premier merci avant qu'il soit plus général pour toutes les questions, toutes les remarques que vous avez formulées maintenant. Merci.
Si vous êtes d'accord, on peut peut-être enchaîner tout de suite. On peut comprendre les demandes que si vous le souhaitez, il peut arriver qu'on ait besoin de se délier les jambes et sortir pour quelques besoins à caractère fondamental. Mais étant donné que nous sommes en soirée, il me semble que ce serait mieux de ne pas briser le rythme. L'intervention d'Emmanuel Durieux a soulevé sans doute un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de questionnements. Peut-être d'abord question, commentaire, précision peut-être, que vous auriez peut-être désiré obtenir. Oui, madame, oui.
Plusieurs questions, mais je ne vais pas inquiéter pour le temps de ces étudiants. Premièrement, j'aimerais juste comprendre comment la directive de télévision sans frontières ou de nouvelle appellation doit-elle être nécessairement appliquée par tous les États membres. Est-ce que c'est quelque chose de, qui va prendre force de loi automatiquement? Et ensuite, toute la question d'Internet, vous avez parlé beaucoup de depuis mars, là, on a décidé de légiférer pour la télévision mobile. Mais est-ce que Internet fait également partie du portail, peut-être en raison de cette directive-là en particulier? Comment les États vont-ils pouvoir appliquer une réglementation? Est-ce qu'ils vont s'adresser aux fournisseurs d'accès? Et toute la dimension, une troisième sous-question, peut-être la dimension économique de la réglementation. Est-ce que les entreprises seront toutes appelées à réinvestir dans la production nationale européenne d'une certaine façon?
Merci pour toutes ces questions qui vont m'amener dans mes urgences de voyage. Mais avec votre aide à chacun d'entre vous et la tienne, Pierre, si tu as des éléments aussi à ajouter. Alors, première question sur la transposition, l'application, l'obligation faite aux États de se conformer aux éléments de la directive. La directive constitue en droit européen une obligation pour les États. Ils ont l'obligation de mettre leur propre législation nationale en conformité avec les principes posés par la directive. Alors, dans la discussion de la directive Télévision sans frontières 89, révisée 97, devenue directive Service des médias audiovisuels à partir de l'adoption, dans le prochain mois, de cette directive, donc Service des médias audiovisuels, les États gardent en obligation d'adapter leur propre législation aux principes posés par la directive, tout en ayant la possibilité d'y ajouter des éléments supplémentaires. Le droit national peut être plus contraignant que ne l'est le droit européen. Par exemple, j'évoquais la réglementation concernant la publicité, la réglementation concernant les noms de quotas de chiffres, par exemple, ces deux aspects, ou la protection des enfants, des adolescents, c'est les trois piliers, points essentiels. Donc les États peuvent rajouter des éléments de réglementation à ce qui constitue le minimum conventionnel, à partir des rangs internationaux, le minimum européen. Les États doivent donc, vis-à-vis des programmes en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne, dès lors que ces programmes sont respectueux de ce minimum européen, les États membres ne peuvent pas s'opposer à la libre réception sur leur territoire de programmes en provenance d'un autre pays, dès lors que ces programmes sont respectueux de ce minimum européen. Donc, une télévision anglaise peut librement être reçue sur le territoire français, dès lors que le droit anglais est respectueux de ce minimum conventionnel, de ce minimum de droit européen. L'État national doit, c'est l'anglais qu'on utilise, transposer en droit interne les principes posés par les directives. Loi de transposition. Alors, d'une certaine façon, la loi du 5 mars 2007 a peut-être déjà en partie anticipé sur certaines des dispositions de la directive. Ce droit européen, il est un droit de compromis. Et on trouve un dénominateur commun, le plus petit commun, dénominateur commun sans doute, entre les diverses législations nationales. Donc, certaines législations sont peut-être pas certaines des parties plus avancées, d'autres encore en retrait. Donc, chacun des États dont législation ne serait pas en conformité avec le droit communautaire, devrait se mettre en conformité. Mais quand on a des formules, par exemple, s'agissant des préoccupations d'ordre culturel, depuis le texte d'origine de 1989, ou pour assurer cette protection d'une identité culturelle nationale européenne, le texte européen dit que chaque État membre doit, dans la mesure du possible, et par les moyens appropriés, assurer un temps de diffusion d'une proportion majoritaire de programmes européens. Quand c'est dans la mesure du possible et par les moyens appropriés, c'est pas très contraignant. Donc on peut interpréter les choses. Donc certains États comme la France, qui ont été avec le Canada dans les négociations internationales à la pointe de cette revendication d'une protection culturelle et d'une production européenne dans les politiques de quotas,
qu'on appelle le quota, donc ces proportions, et les textes européens et les textes et la loi française, prend en compte des proportions, des pourcentages de temps de diffusion et ou de temps de production. Donc, par exemple, si j'envisage cette exigence concernant les quotas dans la loi française, la France impose aux sociétés de programme de télévision de consacrer 60% du temps, et simplement qui concerne la diffusion des œuvres de fiction cinématographique ou téléfilm, 60% à des œuvres européennes et 40% à des œuvres d'expression française. Ou bien, les sociétés de programme s'engagent à consacrer 10% de leur budget de production à des œuvres européennes. Donc, elles ont le choix, la combinaison entre du temps consacré à la diffusion d'émissions, de programmes, de films, ou 10% de leur budget de production. Donc, chacun des États a l'obligation donc, de mettre en œuvre au niveau national, au minimum, les règles posées par la directive. Mais dans la mesure où ils sont amenés, alors que la forme d'une émission étrangère est respectueuse de ce minimum, ils ne vont pas imposer à leur propre société nationale des exigences qui sont beaucoup plus contraignantes que celles qui s'imposent à l'étranger. La concurrence est telle que si je suis société de programme de télévision et que le pays dans lequel normalement je suis implanté ou dont je veux toucher le public m'impose des restrictions plus importantes que ce minimum européen, je vais aller m'implanter dans un pays voisin et bénéficier de ce principe de libre prestation. Donc, le fait que l'intégration, la technique juridique d'intégration des principes communautaires ou de la Convention européenne, d'ailleurs, donc c'est loi dite de transposition, d'adaptation du droit national aux législations communautaires. Mais dans la mesure où les évolutions qu'on a constatées, celle de la loi, du texte aujourd'hui en vigueur, ça va être plutôt d'un assouplissement des exigences en matière de réglementation de la publicité comme en matière de quotas. Donc, ça ne va pas nécessairement avoir une incidence immédiate sur les dispositions législatives à vigueur. C'est votre première question. Je ne sais pas si vous avez très bien répondu sur l'impact ou les conditions d'application de ces principes posés par les directives. L'Internet. Alors, est-ce que l'Internet est ou non inclus dans ces éléments de réglementation?
Pour qui en fait des activités de radio?
Voilà, alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure au titre de la convergence des techniques, c'est qu'aujourd'hui, la radio et la télévision, c'est certes reçu, pour une part encore, par un hertzien, terrestre ou satellite, mais c'est aussi reçu par câble, et puis c'est aussi reçu sur un écran d'ordinateur, les web radios, les web TV, avec ce que vous évoquez aussi la dimension économique, avec des coûts d'exploitation ou de production qui sont probablement moindres que ceux d'une formation ou d'une télévision. Est-ce que aujourd'hui, l'Internet n'est pas l'objet, si je prends le droit français et comme la directive communautaire, l'Internet en tant que tel n'est pas évoqué comme élément ou comme étant un mode de diffusion des programmes de radio et de télévision. Mais dans les services médias audiovisuels, incontestablement, évoqué par la directive, incontestablement, ça englobe un certain nombre de modes d'accès à des contenus audiovisuels par la voie d'Internet. J'ai évoqué tout à l'heure l'instance de régulation qui est le CSA. Le CSA, depuis des années, les présidents successifs du CSA ont revendiqué une compétence sur l'Internet en disant c'est un mode d'accès à des contenus audiovisuels. On réglemente la télévision, il faut considérer qu'on réglemente ces autres médias audiovisuels auxquels on a accès par Internet. En l'état actuel des choses, le CSA n'a pas de compétence sur les médias accessibles exclusivement sur Internet, parce que c'est un média qui est accessible à la fois ou par la voie hertzienne, ou par le câble, et l'Internet, à ce moment-là, indirectement, il a cette compétence, mais des médias audiovisuels qui ne sont accessibles que sur Internet ne relèvent pas aujourd'hui de la compétence du CSA. Il n'y a pas de contrainte de fréquence, donc il n'y a pas de raison d'accorder des autorisations, ou de limiter, ou de déterminer les puissances des fins de soutien. Donc il n'y a pas la même nécessité. Alors ça ne veut pas dire que les messages diffusés sur Internet, ou les programmes, entre guillemets, les contenus, on va dire, les contenus audiovisuels accessibles sur Internet, relèvent cependant du droit français, ou avec cette complexité, du droit nécessairement international ou des droits nationaux du pays d'origine, du pays d'institution. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'appuie sur Internet échapperait à tout élément de réglementation. mais n'est pas soumis au contrôle de l'instance de régulation qui, en l'état actuel des choses, n'a compétence que sur la télévision, la radio et la télévision, au sens qui me paraît être le critère de distinction de ce qu'est la radio et la télévision par rapport aux autres médias audiovisuels, c'est cette politique de programmation. Et constitue de radio et télévision l'élaboration d'une grille de programme. Et un programme qui est imposé, tel jour à telle heure, et telle émission. Sauf qu'aujourd'hui, on peut aussi accéder, enfin, c'est ça qui va apparaître étrange, c'est que le même contenu peut être accessible aujourd'hui par la voie des ondes, ou le même contenu peut, simultanément ou indifféré, être accessible par l'Internet, la télévision allemande, l'iPod, par les trois baladeurs, de balado-diffusion, balado-diffusion, ça échappe aux activités de radio, de télévision au sens classique, parce que chacun y accède comme il veut. Donc c'est là que se trouve cette difficulté.
C'est une bonne contradiction dans le fait que le CSA n'aurait aucune juridiction sur Internet, alors qu'il voit alors pour appliquer la directive.
Alors, les services médias audiovisuels, les obligations qui seraient imposées et qui sont en réalité une atténuation, l'évolution de cette directive, elle n'ajoute pas les contraintes, elle assouplit plutôt les contraintes. Et tout à l'heure, vous me posez la question, je ne sais pas exactement, mais peut-être serez-vous embêté à clarifier les choses, les éléments essentiels de la directive télévision ou médias audiovisuels concernent essentiellement les conditions de diffusion de la publicité, certaines politiques, quotas culturels. Est-ce que ça a encore un sens d'imposer des limites maximum de publicité par heure sur un mode d'accès à la télévision, à des contenus audiovisuels dont le consommateur, entre guillemets, est le seul maître? On peut imposer une durée maximum du temps de publicité à une société de programme, parce qu'entre 20h et 21h, elle diffuse un programme, et qu'entre 20h et 21h, elle n'aura pas le droit de diffuser plus de 8 ou 12 minutes de publicité. Mais si entre 20h et 21h, chacun d'entre nous veut aller regarder un contenu audiovisuel différent, on ne va pas m'imposer à moi une limite de publicité, ou on ne va pas m'imposer à moi une limite, je vais pas avoir le droit de regarder plus de 60% ou de 40% de films américains, ou de films mexicains, ou de films japonais. Ça n'a pas de sens. Donc c'est en ça que je me demande quelle est la portée réelle de cette extension de cette directive à l'ensemble des services de médias audiovisuels, dans la mesure où je ne vois pas très bien quel élément de réglementation concernant et cette durée des messages publicitaires et cette proportion notamment des messages de contenu production nationale ou européenne, quel sens cela peut avoir pour ce type de contenu. Pour les autres éléments de réglementation concernant la consommation d'un droit de réponse ou la protection des mineurs ou la lutte contre le racisme, à ce moment-là, les juridictions, hein, j'ai évoqué l'instance spécialisée que la centralisation, mais c'est ça qu'on dit le CRTC, qui se trouve en partie en concurrence ou en complémentarité avec le juge. L'instance de régulation n'a pas la totalité des compétences. S'il y a un contenu raciste ou s'il y a un contenu contraire à la protection de la moralité, le juge pourra sanctionner le non-respect de la télévision, y compris d'ailleurs dans le jeu, y compris à l'égard de la télévision. Donc, il y a complémentarité à certains égards et parfois concurrence ou contradiction entre les diverses instances ou autorités. Il y a une instance spécialisée dans la régulation audiovisuelle, mais elle n'a pas la totalité des compétences. Je ne sais pas si c'est réglé. Et puis vous avez un aspect sur l'économie. C'est plus très bien qualité.
Là, évidemment, je comprends peut-être que la directive sans frontières n'exclut pas les services de vidéo sur demande.
Alors, la directive de la frontière, dans sa version d'origine, elle ne s'appliquait qu'aux activités de radio et de télévision, au sens où l'a donné l'idée de programmation. L'extension vise théoriquement, mais ça me paraît assez théorique, l'extension vise à s'appliquer à tout mode d'accès à des contenus audiovisuels, sauf que je me demande quel sens ça a véritablement. La libre prestation de services, bon, ça peut avoir cette dimension-là, c'est-à-dire qu'un État ne pourra pas s'opposer à ce qu'un de ses nationaux aille se connecter à une source de médias audiovisuels, de contenus audiovisuels qui n'est pas sur son propre territoire. Donc ça, c'est bien l'application du principe de libre prestation de services. Donc il peut être utile ou important de rappeler que ce principe s'appliquera aussi à ces modes d'accès. Mais par contre, les quelques éléments de réglementation qui étaient la condition et la contrepartie de la reconnaissance de ce principe de libre prestation de services, c'est-à-dire l'orientation concernant la publicité ou concernant les quotas, je vois pas, mais peut-être comprenez-vous les choses différemment ou mieux que moi, je ne vois pas que ces éléments de réglementation puissent avoir véritablement un impact sur ce mode de diffusion, parce que il n'y a plus de grille de programme.
Je peux vous permettre une hypothèse, comme on voit dans les services de télévision à la carte, par exemple, nous on a une réglementation qui agit sur l'offre. C'est-à-dire qu'il y a des quotas de contenu canadien dans l'offre.
C'est ce que quand j'ai fait cette réflexion à Poussel, c'est ce que l'on m'a répondu. Donc, l'offreur devra mettre dans son catalogue cette proportion-là.
Oui, mais de toute façon...
Mais il va mettre. Bon.
À la télévision hertzienne, le consommateur choisit...
Le consommateur choisit aussi.
Les émissions européennes et américaines font l'offre et là aussi dans un catalogue de consommation publicité,
C'est la réponse, en tout cas c'est la réponse qui m'a été faite à Bruxelles par les gens de la commission qui ont élaboré le texte. Ça me paraît
un peu hypocrite. Est-ce qu'on va imposer des
réinvestissements
dans la production nationale? Est-ce qu'on va imposer des pourcentages?
Alors, dans les conditions d'octroi des nouvelles autorisations pour le numérique, pour la télévision mobile personnelle, pour la télévision haute définition, le CSA devra tenir compte, je disais tout à l'heure, à la fois des engagements en matière de programmation et de production et d'implantation de couverture de territoire. Donc ça s'appliquera là encore à la radio et la télévision classique. Mais les exploitants de services d'accès à des médias audiovisuels en ligne, j'ai pas le sentiment qu'on puisse leur imposer. On peut peut-être leur imposer d'avoir dans leur catalogue une certaine proportion, un certain pourcentage d'œuvres françaises, européennes. Mais est-ce qu'on peut... Oui, ils ne sont pas producteurs directement. La fonction est distincte. Donc on ne peut pas imposer à l'exploitant d'un site en ligne, de communication en ligne, qui ne participe pas aux activités de production audiovisuelle. Il achète sur un catalogue.
Donc, il y a beaucoup de revenus de la distribution avec les abonnements, que ce soit par câble ou par satellite.
Ils seront réinvestis dans la production.
Et en fait, c'est la mesure que nous avons ici au Canada. Là. Ce sont les entreprises de distribution de la diffusion qui contribuent le plus au système
La production cinématographique française, elle existe aujourd'hui aussi que parce qu'il y a la télévision. Il y a eu longtemps un débat sur la concurrence de la télévision au cinéma, mais en réalité, la production cinématographique aujourd'hui, en France, elle est à 90% financée par la télévision. Les programmes de télévision sont coproductrices, Canal notamment, est le principal producteur cinématographique français. Mais ça peut s'imposer, me semble-t-il, avec ce programme de télévision, mais est-ce qu'on peut aussi imposer aux exploitants de sites en ligne qui mettront à la disposition du public, qui ne sont pas opérateurs de télévision, est-ce qu'on peut leur imposer aussi à eux de participer à la production ou leur imposer, on ne peut pas subordonner leur existence, elle n'est subordonnée à aucune autorisation, à aucun contrôle. La liberté d'entreprise fait que si je veux créer un site de communication en ligne, je le crée. Il n'y a aucune institution ou autorité qui contrôle mon existence ou qui subordonne mes l'existence de ce cercle. Donc je ne sais pas si on...
Je suis pas d'accord avec vous, mais j'entrerai pas dans
un... Non, mais il faut qu'on...
Mais sur ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de contribution pour les distributeurs de services de télévision,
pour les exploitants,
pour les fournisseurs d'accès Internet? J'avais cru comprendre en lisant la nouvelle loi, dont tu faisais mention, qu'il y avait un système de contribution pour les distributeurs de télévision et que ça semblait viser les fournisseurs d'accès Internet.
Je n'ai pas clairement compris ça, mais peut-être que je mentionne la chose qui... beaucoup d'autres sont doutes, mais non, si tu n'es pas d'accord, c'est que j'ai mal compris.
Non, parce que je ne suis vraiment pas d'accord avec l'idée qu'on puisse penser que ce n'est pas réglementable, entre guillemets, dans la mesure où, en ce qui concerne les compagnies au Canada, oui. Celles qui fournissent le plus de services de radiodiffusion sur Internet, ce sont les grandes entreprises intégrées, déjà réglementées par le CRTC.
Qui
font transiter, au fond, la diffusion des émissions de leur chaîne actuelle vers le réseau Internet, dans un système qui est vraiment à deux vitesses au Canada, parce qu'on n'a pas aucune tout est exempté au niveau Internet et service mobile. Alors, et puis la consommation de ces émissions-là va de plus en plus se faire sur Internet. Alors, à un moment donné, on va perdre beaucoup de ce réinvestissement-là dans la production. La production va en souffrir énormément au niveau de sa capacité, donc, surtout dans une petite population comme la nôtre.
Quand c'est la même société qui utilise ces deux canaux, c'était dans la diffusion, télévision, programmation, et les services de médias audiovisuels, je comprends que... à elle en plus à poser une évaluation, mais quand c'est un service qui n'existe pas dans le système radio-télévision programmation, j'ai plus de doutes qu'on puisse, un service qui n'existe que sur l'Internet, j'ai plus de doutes sur la possibilité que l'on ait de leur imposer des évaluations. Quand c'est un service bimédia.
Oui. Sur les nouvelles plateformes.
Quand les contenus sont accessibles à la fois sur un système classique de diffusion avec une programmation et des modes d'accès individuels à la demande, là je comprends que cette société, elle relève d'abord, en premier lieu, et par là on peut les réglementer, et elle ne diffuse, encore qu'il y a un bonus ou il y a un plus par rapport à ce qui est diffusé sur l'antenne de prendre la radio-télévision. Mais elles sont d'abord pour vocation première de faire de la programmation. Mais elles rendent ces mêmes contenus accessibles par d'autres canaux ou à d'autres moments, avec un choix individuel. Mais lorsque l'activité est exclusivement à la demande, j'ai plus de doutes sur la possibilité ou l'utilité d'élaborer pour ces services-là des éléments d'alimentation, sur l'efficacité de ces éléments d'alimentation. Ça veut pas dire comme vous l'indiquez, c'est-à-dire que c'est la réponse qui m'a été faite à Bruxelles, on va leur imposer d'avoir dans leur catalogue. On va leur imposer d'avoir dans leur catalogue 60% d'œuvres européennes. Alors vous me disiez, c'est vrai que les téléspectateurs, si je lui propose un film français, qui préfère un film américain, il a le droit de regarder. Donc ça ne change pas fondamentalement les choses.
Il enregistre
ce qu'il veut, et c'est vrai. C'est cette convergence des techniques qui fait que il y a des modes d'accès multipliés aujourd'hui, et que certains éléments de l'augmentation qui étaient prévus initialement pour un service, sont ou ne sont pas, ou peuvent ou ne peuvent pas être transposés à d'autres services ou à d'autres modes d'accès. Ce qui m'apparaît, il y a peut-être une extension du champ d'application des éléments de réglementation, mais là où je suis alors plus certain de moi, c'est qu'il y a un allègement des obligations.
Est-ce que vous savez qu'il y a certains pays d'Europe, au contraire, qui vont un peu plus loin que la directive, par exemple, et qui, eux, appliquent une réglementation sur Internet en particulier.
Une réglementation des contenus, en dehors de la mise en œuvre d'une responsabilité pour atteinte à l'honneur ou à la vie privée qui relève du droit classique, des éléments de notation concernant notamment des proportions, des pourcentages. C'est ça qui convient à ma connaissance. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. À ma connaissance, non.
Ce serait réinvestissement à la production, ce serait plus des lois nationales.
Alors, c'est dans le cadre national que ce est imposé. Le principe est posé. Alors, il y a aussi, dans le cadre communautaire, il y a aussi un certain nombre de mécanismes institutionnels d'aide à la production. C'est aussi un des paradoxes de cette organisation économique européenne, qui est celui libéral, mais qui accorde. Et c'est pas simplement au secteur de la production, l'agriculture et beaucoup d'autres secteurs, l'industrie, sont aussi aidés par l'industrie communautaire. Et donc, il y a tout un mécanisme d'aide européen à la production. C'est naturellement que il y a des programmes d'aide. Donc, l'aide européenne aux acteurs de production cinématographique, je ne sais pas dans le budget global, ce que ça pourrait être, mais il y a tout un système d'aide européenne à la production cinématographique. Encore dans le contexte de l'OMC, ça peut poser des difficultés. Il y avait.
J'ai posé ma question, mais ma question était sur l'internet.
Oui.
Créer des émissions sur l'internet, c'est déjà facile. En fait, en Europe, par exemple, ici, nous avons une télé, ça fait 4 entrepreneur, en fait, avec une banque d'argent d'investissement, il crée une télé, il distribue sur l'internet, et maintenant peut-être 5 millions, 10 millions de personnes cliquent et regardent, mais beaucoup d'effets. Mais c'est peut-être une émission de drogue, tout le monde regarde, mais ça peut être une émission aussi pornographique, par exemple, ça peut être distribué. Mais je veux très attention aux forces d'Internet, les dangerosités d'Internet sur la question des émissions. Je crois qu'il y a des travaux sur le child pornographie, des messages de pornographie. Donc j'ai très attention pourquoi l'Internet est très important, mais pourquoi il n'est pas évoqué par exemple dans les lois ou.
Alors, ce que j'ai essayé d'évoquer, c'est les spécificités du droit de l'audiovisuel, mais ça n'exclut pas que ce mode de communication soit soumis aussi à d'autres éléments du droit des médias, et notamment au régime de responsabilité. Et donc, des émissions de caractère pornographique, même si dans la directive il y a quelques dispositions concernant la protection des enfants, des émissions de caractère pornographique, elles tomberaient sous le coup de dispositions pénales qui s'appliquent à ce mode de diffusion comme à tout autre mode de diffusion, sans qu'il y ait nécessité d'élaborer un droit spécifique pour ce mode de diffusion. Que le contenu pornographique soit aujourd'hui accessible sur Internet, comme il a été à l'origine du développement des radios et des télévisions cryptées, comme il était à l'origine du développement de la vidéo, quelle que soit la technique utilisée, quel que soit le support, les mêmes règles, les mêmes principes s'appliquent que la protection des bonnes mœurs, même si l'évolution des mœurs, c'est qu'on apprécie les choses différentes. Donc ce n'est pas un champ qui soit en dehors du droit. La seule, quand je dis la seule, c'est pas négligeable cependant, la seule principale difficulté ou nouveauté de l'Internet, ou en tout cas du caractère accentué de ce mode de diffusion, c'est assurément la dimension internationale. Si c'est un site qui est mis en ligne à partir du Pérou ou de la Corée, on aura à l'évidence plus de mal à poursuivre et sanctionner, ou si on poursuit même sur le territoire national, à obtenir l'exécution d'une décision à l'étranger. Donc la difficulté principale de l'Internet, me semble-t-il, mais aussi il y a plus d'experts que moi, c'est assurément cette dimension internationale de l'édition, qui existait de façon plus limitée déjà par d'autres. Il y avait des publications pornographiques qui circulaient à travers les frontières, et des programmes de télévision par la télé, par la satellite, et assurément, une des particularités de l'Internet, c'est cette dimension sans frontières.
Peut-être que je vais changer ma question, Internet Governance Forum, qui était était en fait réunie à Toulouse, toutes les créations après Grèce, maintenant au Brésil. Mais les pays où sont participés pour parler des questions comme ça, mais c'était quoi la position de l'Union européenne, comment j'ai changé de question dans ma question comme ça. C'est une internationale, mais c'est aussi, ça concerne l'Union européenne, mais aussi les autres pays aussi. C'était la position.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre...
Non, j'ai dit, peut-être, ok, c'est une question internationale, mais il y a des Internet Commons Forum, c'est une réunion, en fait, c'est une...
Oui.
C'est international, mais la première fois que ça commence avec les Genèves, en 2006, l'année passée, ils étaient réunis pour parler, pour...
C'est des efforts de concertation au niveau international pour tenter de dégager quelques principes. En dehors du droit, à l'échelle internationale, on a vite mesuré les limites. Il peut y avoir en effet d'autres modes de régulation de ces activités. Est-ce qu'une sorte de régulation, d'autorégulation, de co-régulation, de... Est-ce que ça a plus de chances de s'appliquer à ce mode de diffusion qu'à d'autres? Pour cette raison, à l'échelle internationale, les préoccupations, les cultures, les idéologies nationales, les préoccupations économiques, là encore, mon opinion n'apporte pas grand-chose plus que celle de Jean-Marc. Je suis assez sceptique, j'ai déjà quelques doutes sur l'impact du droit international, je suis assez sceptique sur, mais on peut avoir d'autres points de vue, sur les chances d'une co-régulation, Je ne demande qu'être contredit par la réalité. Mais ça aussi, je ne suis pas très optimiste. Mais vous avez le droit de penser différemment. Hein.
Est-ce que vos questions souhaitent...
C'est si peu clair que finalement, vous n'arrivez même plus à trouver les questions qui permettraient de clarifier un petit peu les choses.
Sur Internet, c'est certain que, pour aller dans le même sens, dans le sens de ce commentaire, de plus en plus, on constate que si les États nationaux ou les entités plurinationales comme l'Union européenne sont en mesure de faire, c'est d'augmenter le niveau de risque associé aux activités qui à leur avis, présentent des enjeux. Bon, il y a des enjeux évidents, comme la pornographie des enfants et tout ça, mais essentiellement, ce n'est pas une réglementation qui fonctionne comme si elle avait vocation à s'appliquer de façon universelle, et beaucoup plus comme une réglementation qui augmente les risques de ceux qui font des activités qui comportent des enjeux importants. Et donc, c'est un modèle un peu différent en termes de logique. Concrètement, ça veut dire rendre plus risquées certaines activités ou, à l'inverse, rendre moins risquées certaines activités. Si on applique ça à la production nationale, ça voudrait vouloir dire de faire en sorte que soient recanalisés certains revenus qui découlent des dépenses que les ménages font pour les services Internet, tous services confondus, et en recanaliser une partie vers la production que l'on veut favoriser, soit parce qu'on croit que c'est essentiel pour la diversité culturelle, soit parce qu'il faut répondre à des besoins spécifiques, à des publics, à des créneaux de programmation sur lesquels on a les autorités nationales estiment qu'ils ont ont besoin de compenser des programmes qui ne se produiraient pas autrement. Alors, c'est souvent de cette façon qu'on va intervenir dans des environnements comme Internet. Et il y a aussi la réglementation de l'espace tablette, comme on dit, comme M. Durieux et Madame le mentionnaient, c'est-à-dire on va exiger que soit offert 60% du contenu, en sachant bien sûr, évidemment, qu'il n'y a rien de garanti que
la consommation
sera dans les mêmes proportions. Mais en fait, l'enjeu, c'est pas tellement... C'est dans une logique qui n'est plus une logique de programmation,
l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on puisse maintenir la disponibilité des programmes nationaux en faisant le pari que les gens vont faire ces choix de toute façon s'ils sont disponibles. C'est que les programmes nationaux, la difficulté, c'est comme ils ne se produisent pas en proportion avec les revenus qui existent dans un système donné. Ben, il faut s'assurer de recanaliser les produits ou les argents au niveau de la production nationale. C'est le gros enjeu, finalement, et moi, j'avais l'impression, puis ce que disait Emmanuel Derieux, il me semble qu'il y a des indices de cette évolution-là dans les développements nouveaux là, qu'il nous présentait à l'égard du droit français. Donc, je crois que quelqu'un d'autre... Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un essoufflement à force de pouvoir financer dans ce que les médias, on le voit, les publicités au niveau du visuel, les budgets diminuent de plus en plus, les bascules sur Internet. Donc le financement, est-ce qu'il ne va pas atteindre une certaine limite par ce biais? Et finalement, la production, est-ce qu'elle ne va pas basculer totalement sur Internet parce qu'elle est totalement libre?
Qu'il y ait un marché publicitaire, parce que l'économie est peut-être une situation florissante, et qu'il y a de plus en plus de supports de publicité, donc le marché, on est plus nombreux à manger le même gâteau, la part de chacun est réduite. Donc il y a en effet une répartition des marchés publicitaires sur les supports multiples, et donc la part de chacun peut sans doute être réduite. Est-ce que ça va impliquer un transfert global d'un mode de financement à d'autres modes de financement? Est-ce que la production dépendra définitivement ou globalement non plus de la diffusion RTL, c'était ça votre question, mais de la diffusion je pense que je n'ai pas le sentiment que en l'état actuel des choses, que l'Internet ait vocation à devenir, et je ne souhaite pas, vocation à devenir le seul diffuseur, ou seul programmateur, entre guillemets, de toutes les productions, et donc qu'il ait vocation à être l'origine, la source de tous les modes de production non plus.
Pourtant, les grandes entreprises de technologie entament ce qu'ils appellent la guerre du savoir actuellement pour placer une boîte à côté de la télévision et diffuser des programmes qui seront vraiment à la demande, comme la ITV Box, Apple TV, Sony aussi avec sa console de jeu, Microsoft aussi, tout le monde veut avoir un système de diffusion avec des programmes, on va reprendre des programmes, créer son propre programme, et au final, on va avoir une véritable demande, on n'aura plus un système de diffusion, et donc véritablement on replace la personne au centre d'un choix, et plus, elle ne sera plus du tout passive, donc la télévision, dans ce cas-là, va-t-elle encore continuer à exister sous sa forme actuelle ou évoluer?
Évoluer sûrement. La prospective est d'ailleurs difficile, surtout parce qu'elle porte sur l'avenir. Et puis, la vie du juriste n'est pas forcément cette capacité de prévision. Donc, je ne sais pas jusqu'où ce tableau un peu noir, ou qui pour certains peut-être, peut aller. Si c'est ça la réalité, seulement, il faudra en effet imaginer des mécanismes, des obligations de production, si on peut encore, qui pèseraient sur ces exploitants nouveaux, si on veut encore défendre une quelconque production.
Mais quand on voit France Télécom, qui a une filiale de maison de production actuellement, on voit bien que les acteurs, les fournisseurs d'accès à Internet, engrangent de tels revenus actuellement, qui deviennent des géants de la communication, et la convergence entraîne à ce moment-là. Vont avoir non seulement les clés de diffuser quelque chose, mais qui vont pouvoir le contenu et produire ce contenu, donc, et en échappant à une totale
réglementation. Et en plus, ça peut être en effet des sociétés de production tout à fait étrangères.
Totalement. Les chaînes américaines actuellement vont diffuser sur Internet toute leur série prochainement, des grands groupes, donc ils vont se taper les moyens de diffusion en Europe et des grands groupes commerciaux. Donc, il n'y a plus de limite grâce à Internet et aux moyens de diffusion et de sectoriser les marchés.
Je n'ai pas traité, je n'étais pas très optimiste dans ma conclusion, mais vous êtes encore plus pessimiste que moi.
Non, mais ça remet en cause effectivement Internet. Il y a même d'autres systèmes qui permettent de diffuser des signaux, de reprendre des signaux, que soi-même on puisse être un émetteur en reprenant les signaux de télévision et en les diffusant également. Donc, véritablement, tant que ça va aller dans ce sens-là, il n'y aura pas de limite à l'exploitation de tous les signaux et à un changement.
Ouais. Votre sentiment, c'est que nous sommes actuellement les déjoués de la technique et que le droit n'aura plus aucune maîtrise sur ces évolutions-là.
Il aura toujours une maîtrise, mais peut-être que les outils qu'on se donne actuellement ne vont pas dans la bonne direction et qu'il y a un équilibre du marché qui doit les trouver par lui-même et on va retrouver des moyens de financer de toute façon ce qui va disparaître. Par exemple, sur les moyens de l'audiovisuel de la télévision, va apparaître...
Oui, la raison de ne pas être totalement déçu, c'est quand même qu'il faut bien qu'il y ait des contenus.
C'est ça, donc si on se crée autrement.
Les modes de financement ou les origines de financement sont très différents, mais si ces exploitants veulent avoir quelque chose à offrir à leurs clients, il faudra bien qu'ils aient des contenus. Alors, les choix de production sont différents, les préoccupations culturelles, les conditions économiques ou l'origine nationale pourront être différentes, mais il y a quand même, ça sera quand même la nécessité d'avoir des contenus. Plus il y a de canaux et de réseaux de diffusion, plus on peut penser qu'il y a besoin de contenu, parce que si j'ai 600 canaux à disposition, mais que j'ai besoin de contenu, ça ne sert à rien. De ce point de vue-là, on ne peut pas être totalement pessimiste quand même. On décide de ne pas suicider ce soir.
Je peux me permettre une bonne question pour répondre à votre invitation. Je sens que toutes les réglementations nationales qui ont été mises sur pied l'ont été beaucoup en réaction à la production américaine qui est tellement énorme et omniprésente et importante. Ils en ont fait leur industrie majeure et ils ont tenté d'ailleurs d'arroser tous les pays de leurs émissions depuis le début. Alors les pays ont eu des volontés politiques de sauter ici pour réglementer tout ça avec des quotas de production nationale, etc. Je pense que c'est encore à eux de décider, ces pays-là, est-ce qu'une culture nationale est toujours importante, et comme la radiodiffusion, qu'elle soit sur Internet, tout ça, est une des plus importantes sources de culture, est-ce qu'ils vont abandonner ce temps-là en disant on ne peut pas réglementer Internet? Moi, c'est là où je trouve qu'il y a une grande contradiction entre le fait de signer le traité sur l'expression de la liberté de développement culturel. Le Canada s'est fait un champion de cela, a voulu le faire, a voulu être le premier signataire. Et d'autres côtés, on dit, on exempte Internet de toute réglementation et on ne touche pas à ça parce que ce n'est pas possible de le faire. Alors, c'est deux discours ici, quelque chose qui est discuté en France aussi, mais il me semble que la France est un des partenaires de ce traité-là. Il y a la seule volonté politique de maintenir des structures en place, parce que tout aspect de consommation, si on est au libre marché complètement ouvert, évidemment, qu'il y a une production nationale beaucoup ailleurs des États-Unis, dans cette économie.
Là, c'est référence à une convention qui a été signée dans le cadre de l'UNESCO en octobre 2005, cette convention sur la promotion de la diversité culturelle.
Les expressions
culturelles. Entre une convention UNESCO avec un idéal culturel noble,
que les
États-Unis ne signeront pas, et c'est certainement sur certains d'autres pays. Des accords bilatéraux pour qu'ils ne signent pas non plus, ne ratifient pas cette convention. Et puis, un traité comme l'OMC, il me semble qu'il y a un certain équilibre entre les chances que l'idéal de protection des diversités culturelles soit protégé et les contraintes économiques. Je crains, là aussi, c'est mon pessimisme naturel, que le traité OMC, avec des pratiques du libéralisme économique, même si provisoirement, pour avoir obtenu cette notion d'exemption culturelle, je crains que les lois de l'économie l'emportent largement sur les préoccupations culturelles. Donc, puisque dans ce traité OMC, on a dilué ce qui aurait pu être une convention sur la diversité culturelle dans le cadre de l'audiovisuel, qui était à l'origine, en tout cas pour faire place, on a dilué ça sur, avec le folklore national, dans des conditions telles qu'il n'y a plus grand chose qui puisse, de mon point de vue pessimiste encore, il n'y a plus grand chose qui puisse véritablement sortir.
Quand même que l'essentiel de ce traité-là, c'est de dire que les États ont le droit de doter de mécanismes pour protéger leur culture.
Oui, mais dans le même traité, il est dit aussi que ce traité-là n'entre pas en contradiction avec les autres traités préalablement signés par chacun des États. Et parmi les autres traités préalablement signés, il y a notamment le traité OMC. Donc, la formule, je ne sais plus, est un peu rascalée.
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à ça. C'est mieux que les États aient réussi quand même à prendre conscience, dans le cadre de l'UNESCO, de ce qui est une passion. Oui. Le rappel de ces principes, c'est mieux. Mais dans la confrontation, à un moment donné, entre un idéal culturel et les contraintes et les besoins économiques, je ne suis pas sûr que la culture...
Quand on sait que l'adoption de cette convention-là pour la diversité culturelle, la signature par plusieurs pays qui ont signé, était sujette au fait qu'il inclut la clause dont vous parlez sur l'OMC. Donc cette convention-là n'avait pas vu le jour sans qu'on dise que l'OMC allait au fond primer sur cette convention-là. Donc c'est un peu le jeu qui veut que les pays ont fait, enfin, du moins selon la compréhension. En mettant cette belle convention-là, ils admettent que ces principes-là qui existent, mais par ailleurs, ils ne l'auraient jamais mis si on n'avait pas pu subordonner à l'ONC. Je ne sais pas à quel point on peut dire que c'est quelque chose qui va mener à une action concrète prochainement. Je ne sais pas à quel point les services de l'US qui étaient dans le cadre de l'ONC le sont toujours depuis l'avènement de ce traité.
Ce que j'ai compris des accords OMC, c'est que provisoirement au moins, vous corrigerez, les services audiovisuels n'entraient pas. Les principes d'exemption. Donc on n'applique pas.
Ils ne sont pas en contrat.
Ils sont
exemptés ici.
Oui, mais le régime d'exemption, il a quand même été posé comme étant provisoire. Et je ne suis pas sûr qu'au sein de l'OMC, on considère que la Convention UNESCO constitue le cadre juridique de cette exemption ou de cette exception culturelle. Ces deux structures, ces deux institutions différentes, certains des principaux États signataires ou à l'origine de l'accord OMC des États-Unis, notamment n'étant pas partie à la Convention UNESCO, on ne peut pas considérer que la Convention UNESCO soit la formulation, concrétisation de ce principe d'exception culturelle provisoirement adapté ou adopté ou accepté dans le cadre de l'OMC, et qu'un jour ou l'autre, il parviendra sur le tapis, ou un jour ou l'autre, le fait même d'être exempté, c'est qu'on ne bénéficie même pas, et sans les produits culturels, je vois toujours l'aspect le plus sombre, le plus noir des choses, c'est que le principe minimum de protection qui découle des accords OMC ne s'applique même pas aux produits culturels.
À mon avis, les États-Unis n'auront même pas besoin de le remettre sur la table à l'OMC, puisqu'ils ont Internet maintenant. Alors, ils peuvent tout passer par Internet, ils n'ont plus aucune de
Non, ils peuvent ne pas être, théoriquement ou juridiquement, ils peuvent ne pas être les seuls origines de ce qui circule sur Internet. Ils sont que de fait. Mais je ne crois pas qu'on puisse considérer que la chose a été réglée dans le cadre de l'OMC, on a simplement dit provisoirement, puisqu'on ne parvient pas à se mettre d'accord, provisoirement, on dit, ça n'entre pas. Mais le fait que ça n'entre pas dans le minimum que constituent les accords OMC peut faire aussi que ces produits-là ne bénéficient même pas de la protection de l'OMC. Et donc, il n'y a pas vraiment les différents, il n'y a pas, je vous impose ma loi. C'est encore pire, ça pourrait être peut-être encore pire d'avoir laissé les produits culturels en dehors des accords OMC, parce que du coup, ils échappent à toute réglementation. vision cosmique des choses.
Moi, je me disais, la convention sur la diversification, je ne peux pas servir d'actrice pour le financement du contenu. Parce que ici, au Canada, tout est extrêmement expérimental. Ou on pourrait dire, on finance parce que tu crées de la culture, puis il y a partout la personne qui veut du financement doit introduire quelque chose.
Formellement, officiellement, c'est ça. C'est cette convention est destinée à permettre aux États de contribuer au financement des activités culturelles, soutenir, protéger par des mesures protectionnistes, des quotas, une participation au financement. Officiellement, c'est ça. Mais ça ne s'impose qu'à ceux des États qui ont signé et ratifié la convention. Or, un pays comme les États-Unis n'ont pas ratifié, n'ont même pas signé, ils ne signeront pas cette convention. Donc eux, ça ne les concerne pas. Donc ils peuvent s'opposer dans leurs relations commerciales, bilatérales ou multilatérales, ils peuvent s'opposer et contester le fait qu'un État soutienne, ce que même font d'ailleurs par d'autres mécanismes, si je comprends.
Moi, ce qui me vient un petit peu comme, on pourrait mettre produit culturel, par une connotation noble, qui est plus
c'est vrai que le produit
culturel, mais comment le produit
pourrait
peut-être faire de meilleurs produits pour pouvoir concurrencer là.
Je pensais que ce que vous aimez, c'était que les créations culturelles sont qualifiées de produits. Non, c'est que les produits sont qualifiés de culturels. C'est ça qui vous aide.
Comment ils n'arrivent pas à la nomination de culturel. On appelle produit de culture de masse, et vraiment de la culture.
La culture, ça ne se décrète pas. Enfin, la qualité ou la culture, ça ne se décrète pas, ou ça ne pose pas par des règles. Et ce n'est pas forcément ce qui est culturel qui touche le public le plus vaste aussi. Donc, comme ce qui touche le public, c'est ce qui rapporte les revenus les plus importants. Enfin bon, je dis une banalité là. Donc,
est-ce que d'autres personnes auraient souhaité intervenir dans cet échange, cette discussion? Ce silence m'indique
que... Oui, oui.
Ah, il y a une personne.
Si vous êtes au fond de la salle, vous attirez peut-être davantage.
Ah, peut-être, ben oui, alors...
On peut poursuivre la conversation au fond de la salle.
On propose de poursuivre la conversation pour ceux qui le souhaitent au fond de la salle, autour d'un serenade ou d'un jus de tomate. Écoutez, il me reste aussi à remercier en notre nom à tous Emmanuel Derieux qui avait voulu venir partager avec nous donc ses inquiétudes et son pessimisme. J'espère ne vous empêchera pas d'avoir une nuit réconfortante et reposante. Mais alors je veux te remercier d'être venu comme ça nous partager avec nous la lecture que tu fais de l'évolution et aussi des interrogations que soulève l'évolution du droit de l'audiovisuel. Merci donc de ta présence et de cette participation et merci aussi à vous tous d'avoir voulu répondre à cet échange.
C'est moi en tout cas merci de tes invitations, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Et je crains dans mon pessimisme naturel, le jour où on nous dira que pour préserver la couche d'ozone, il faut faire des visioconférences, ce qui permettra évidemment de faire des économies, de ne pas souffrir du décalage horaire qui font que les idées sont pas toujours très claires, que je peux pardonner. Et qui nous privera de ces contacts humains qui feront partie probablement de cette diversité culturelle-là.
Mais ça fera du contenu sur Internet.
Ah, de qualité.